Coucou les movers et bienvenue dans Movers Podcast épisode 8. Aujourd'hui, j'accueille Davy Gallon, un combattant MMA français qui combat pour l'organisation du Bellator. Et dans cette conversation, on parle évidemment d'arts martiaux, de sports de combat au tout début. Mais même si ça vous intéresse pas, n'hésitez pas parce qu'il y a pas mal de j'aime sur l'entraînement physique, la préparation physique et comment développer un corps capable de mieux bouger. Donc n'hésitez pas, même pour les non pratiquants d'arts martiaux et de MMA, à suivre un peu cette partie-là. Et après, on enchaîne sur la partie un peu plus cosmique de ce podcast dans lequel on parle d'art de vivre, de méditation sur la mort, d'avatar, de transcendance de l'âme. Donc n'hésitez pas, je pense que ça va vous plaire d'avoir le retour d'un athlète de sport de combat de haut niveau, et ça va vous permettre aussi d'avoir les outils pour quelqu'un qui met son corps et son esprit dans des environnements assez stressants, pour avoir les outils de ce type de personnes, ce qu'il utilise au quotidien et ce qu'il utilise de manière régulière dans la préparation de ses épreuves de vie, hein, pour le corps et pour l'esprit, que sont les événements sportifs, sport de combat. Et aussi pas mal de j'aime, pas mal de livres. Davy, c'est quelqu'un qui lit beaucoup. Et donc n'hésitez pas à suivre un peu l'entièreté de son podcast. C'est vraiment passionnant, et on essaye aussi avec humour et avec amour et bienveillance de repenser certains modèles de société qui nous divisent et au lieu de nous rassembler. Donc si vous êtes en quête d'unité, de gratitude et de reconnexion avec la nature, n'hésitez pas. Ah, il y a aussi un passage que j'ai beaucoup aimé dans ce podcast, qui est celui de la perte de poids et de la sèche, et de ce qu'on appelle le cutting. Donc cette phase dans laquelle on perd beaucoup de poids très rapidement pour se préparer à un événement sportif qu'est le combat. Donc moi, c'est une des questions qui revient assez souvent, et je pense qu'il y a pas mal de confusion chez la plupart des gens sur ce que c'est le cutting, qu'est-ce qu'une perte de poids faite correctement et qui n'endommage pas la longévité et la bonne santé du corps. Donc n'hésitez pas à suivre. Je sais que c'est un peu le sujet qui est sur toutes les lèvres à chaque fois, hein, c'est la perte de poids. Donc là, pour une fois, on adresse très légèrement la nutrition également, avec le jeûne intermittent. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. C'est en premier tiers, je pense, du podcast. Et pour les autres, je vous dis, profitez bien. Pour la petite histoire, Davy, c'est un de mes élèves. Donc j'ai accompagné Davy pour la préparation de son précédent combat, et c'est quelqu'un que je suis déjà depuis presque 5-6 mois là maintenant, avec la mobilité. Donc en termes d'expérience de vie, on en a vécu pas mal, lui et moi, avec ce coaching là, cette préparation qui permet aussi d'aller un peu plus loin que la partie simplement physique. On parle évidemment de pas mal de choses, et on essaye de lier le corps, le cœur et l'esprit, en déverrouillant les articulations en premier, et par la suite le mouvement, l'aisance. Et donc on a été de toute façon assez souvent amené à parler de tous ces sujets, notamment la respiration, la méditation, la spiritualité. Et donc là, c'était un vrai plaisir pour moi d'avoir l'occasion de partager tout ça avec vous, et de présenter Davy, vraiment un guerrier de la lumière, quelqu'un qui essaye de développer autant ses compétences martiales que son esprit et que son cœur. C'est également un père de famille, et donc vous allez avoir toutes ces dimensions-là dans cette personne, avec un discours d'une honnêteté incroyable, pur, très franc. Très marrant. Donc voilà, je vous dis à tout de suite, et je vous laisse profiter de ce merveilleux podcast avec Davy Gallon. C'est parti, Movers, épisode 8, on commence. Bon c'est bon, on démarre, mon Davy. Bienvenue dans cet espace de discussion, cet espace de conversation cosmique. Yes, je suis ravi de t'avoir. Et puis voilà, on va s'embarquer, on va voir où est-ce que tout ça va nous mener. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es, mon Davy? Présente-toi.
Moi, c'est Davy. Je suis combattant professionnel d'art martiaux. Là, ça fait maintenant 10 ans. En fait, j'ai toujours été dans les arts martiaux. J'ai commencé jeune, à 5 ans, par la
Ouais.
À l'époque, faire autant de sport, d'arts martiaux comme il y a maintenant, les gamins, ils peuvent tout tester.
Ouais.
Donc, je me suis lancé dans le judo parce que j'étais quelqu'un d'hyperactif et ma mère, elle en pouvait plus.
Comme toutes les mamans.
Donc, ouais, fallait canaliser l'énergie, c'était possible, c'était plus. Donc, du coup, j'ai commencé par ça. Ensuite, j'ai continué et puis j'ai eu une grosse blessure au judo sur un stage de préparation aux championnats du monde. Là, je suis tourné avec les mecs de l'équipe de France. Il y en a un qui m'a broyé l'épaule.
Mais non.
Mais vraiment. Ah si, je te jure. Il y a eu. Honnêtement, le stage, il était sur 3 semaines. Fin de première semaine, j'étais déjà un peu broyé.
Ouais.
Et ouais, c'était.
Mais c'était dû à quoi? C'était un sparring, un truc comme ça, ou c'était une séance, je sais pas, préparation physique?
C'était des combats. C'était des combats. Ouais, tu sais, en fait, on fait du nagekomi. C'est en judo nagekomi. Il y a un uke, un tori. Tori, c'est celui qui fait. Et là, le tori te jette sur 1 minute ou 2 minutes, je crois.
Ouais.
Et sauf que le gars qui m'a acheté, il m'a acheté plusieurs fois sans respect, comme un sac à patates.
Ah mince.
et l'épaule, en fait, j'avais lésion bourrelée, j'avais entorse acromioclaviculaire, donc j'avais vraiment l'épaule dans le sac, quoi.
Ouais, bah.
Et donc à partir de là, en fait, il y a eu grosse blessure. Je vais pas parler de descente aux enfers parce que c'est un peu extrême, quoi. Mais prise de poids, tout ça, parce que forcément,
mais non.
Tu
manges
normal. Si je suis monté. Alors avant que mon coach il commence avec moi et qu'on attaque le MMA, j'étais à 95 kilos pour 1m73.
Oh là là.
Je marchais plus, je roulais, tu vois. C'est pour ça que je suis brésilien, rouler, tout ça, moi ça m'attire, tu vois. et du coup, après, c'est un pote qu'on avait en commun avec mon coach. Il me dit, tiens, j'ai un pote, il fait du Muay Thai. Moi, c'était à 45 minutes de chez moi. Et il me fait, vas-y, viens essayer. Et je viens essayer. Et j'ai rencontré mon coach de maintenant. Et ça fait 10 ans, tu vois, ça continue.
Ouais, bah.
Et au début, mon coach est gendarme. Donc, c'était dans une caserne et tout, hein, tu vois. Et donc, je rentrais dans la caserne de gendarmerie. J'allais m'entraîner avec ses collègues et tout. Donc, c'est top parce que, tu vois, je me sentais un peu privilégié. Ouais. Je suis quand même le seul qui pouvait taper des gendarmes en live, tu vois.
Ouais, bah.
donc, c'était plutôt fun.
Mais donc, ça, c'était vraiment les débuts. C'est les débuts du MMA.
Ah, c'est les débuts.
Avant qu'on ait des salles, avant qu'on ait des structures, toi, t'étais, tu bourlinguais, on va dire, au début, quoi.
Ah bah carrément, même quand j'étais au judo, pour te dire, je sais pas si tu te rappelles, il y avait un magazine, ça s'appelait Combat, je crois, Combat, juste Combat.
Non.
Et j'allais j'allais à chaque fois dans tous les bureaux de tabac pour essayer d'en choper un, parce qu'il parlait du MMA, il y avait encore le Pride à l'époque.
Énorme.
C'était l'époque où t'avais encore Cyril Diabaté qui combattait en Angleterre au Cage Rage et tout.
Ouais.
Tu vois, c'était cette époque-là. Donc, en fait, c'est les mecs… Moi, je lisais, j'étais à fond. Et quand je faisais mon judo, il y avait des techniques dans le bouquin. Et les techniques de grappe ou de JB, j'essayais de les mettre au judo. Tu vois le truc ?
L'explorateur.
Et c'est comme ça que j'ai appris, en fait, le sol au début. J'ai jamais eu vraiment de prof de JB ou de grappling. Ouais. Moi, je me suis mis grâce à ça, grâce à ces bouquins, grâce au judo, et c'est parti de là. Attends, c'est pour ça des fois les mecs ils me disent je te jure. et du coup, après, quand j'ai commencé avec mon coach là, comme tu dis, on n'avait pas de salle, je m'entraînais à la gendarmerie, donc on mettait, c'était les tatamis puzzle là.
Ouais, bah.
Et du coup, on s'entraînait là-dessus. Il y avait une petite surface. La prépa physique, c'était un petit peu. Mon coach, il me donnait ça à faire, et voilà. Et mes premiers combats, je les ai fait comme ça. J'ai fait, c'est 6 mois après, je crois, j'ai fait mon premier combat en pancras au Havre.
Ouais.
En moins de 84. J'ai attaqué direct il y avait pas de classe avant. C'était classe B, je crois, un truc comme ça. C'était semi-pro. Et je voulais pas attaquer en amateur parce que comme j'avais un passif judo, je voulais être honnête avec les gars qui commençaient, qui faisaient que du pancras en fait.
Ouais, bah.
Et j'ai commencé tournoi au Havre. J'affronte un mec, Nori Beramdan, un bon gars. Donc lui, je le soumets. Après, deuxième combat, Kevin Aguzol. un gars du Havre, plus jeune champion de France de kickboxing, un truc comme ça. Sauf que moi, à part fermer la garde et puis mettre direct, je savais pas faire grand chose, quoi.
Ouais.
Et du coup, je gagne le combat, mais après un extra round, amené au sol, guerre totale. Donc c'était vraiment sympa. Et après, je perds en finale contre Gary Darefi, un mec qui combattait déjà en MMA, un peu en Allemagne, tu sais, il allait bourlinguer aussi, tu vois.
Ouais, bah.
Et ça, c'est mes premières expériences du pancras, pas du MMA, du pancras.
Et le MMA, après, c'est venu comment? Juste après?
Eh ben, en fait, pas juste après, ça a été un processus, ce qu'on disait avec mon coach, on veut d'abord nettoyer la caté en France avant de m'exporter à l'étranger.
D'accord.
Donc du coup, j'ai commencé à aller un peu partout, au Havre, sur Caen, il y avait des combats de pancras, pareil. Et après, il y a Hatch qui m'a donné ma chance, Stéphane Hatch au Fourier sur Paris, qui organise tous les 100% fight, tout ça. Et j'ai commencé au 100% fight. J'ai fait un tournoi à 84, je perds en finale. Là, par contre, truc de ouf, la finale, elle me reste. Enfin, c'est pas qu'elle me reste à travers la gorge, mais mon coach, lui, s'en souvient encore. On combat. Premier combat, tu sais, nous on est des provinciaux. Pour quand tu montes sur Paris, t'es un gars de la campagne. Tu vois. Moi, il m'appelait le mangeur de camembert au début. Pour te dire. Et donc on va sur Paris dans cet état d'esprit. Et j'affrontais un mec apparemment de Paris. C'est Adel Gadou, pareil, un mec sympa. Et les mecs, ils disaient, mais il va te tuer, tout ça, toi, le provinciaux. Et je dis, bah oui, mais c'est pour ça qu'on vient. c'est pour ça qu'on vient, pour se tester. Et puis, bah, si je ferme les yeux, bah, c'est pas grave, je l'aurais fait dans le ring, comme un samouraï. Et du coup, bah, j'ai eu mes clés de papates dans le premier round. Et après, je perds en finale contre David Baer, un des coachs de Michael Leboux. Et là, je mets étranglement arrière, fin de combat. Je te jure, le mec était devant au point. Et je mets étranglement arrière. Et là, tu vois, on est juste au bord des cordes. On n'est pas prêt à tomber du ring, tu vois. C'est vraiment, on est encore bien dans le ring et tout. Et là, je vois, ça bouge plus. Position verrouillée, étranglement arrière verrouillé. Et là, l'arbitre, il arrête.
Ah non.
Je te jure. Et là, mon coach, je le vois toujours. Je vois sa tête, on l'a encore en vidéo. Et il fait une autre tête, mon frère. Il s'en souvient encore, je te jure. C'est un truc de malade. Cette défaite-là, elle est restée dans sa tête. Et je perds à la décision après. D'ailleurs, il avait totalement la décision. Hein, c'était normal. Mais bon, voilà. Et après, je suis descendu de KT 77 parce que le poids descendait un peu du coup quand je reprenais le sport.
Ouais.
Et donc j'ai affronté les mecs comme Beto, Florent Beto Rangal, Christophe Trizot Chapuis, Grandin, Malik Silla, des mecs de la Snake, enfin les grosses salles de Paris.
Ouais, bah.
Snake Team, tout ça. Pendant un moment, j'ai eu 7 victoires d'affilée, donc ça enchaînait pas mal, c'était cool. Et à partir de là, on a dit, allez, vas-y, on essaye en MMA. J'ai commencé en Finlande, où j'ai affronté une star locale. Pareil, j'ai mis une clé de papade. Et puis après, des victoires, des défaites un peu partout. En Suisse, j'ai perdu contre le bout. Et après, je suis monté en Pologne. En Pologne, j'ai gagné un titre. Après ce titre-là, il y a eu des blessures. Je me suis fracturé... sur un combat, on en reparlera un peu plus tard si tu veux. Et je mets un gros crochet, je me pète le pouce premier round. Sauf que c'était mais explosé le pouce. Hein. C'était un 5 round et je le mets KO qu'à la 4e reprise. Donc plutôt, sur le coup, ça va, tu sais, tu sens une décharge électrique, tu fais waouh, tu fais ça picote quand même.
Ouais.
Et à la fin du round, en fait, quand t'as l'adrénaline qui redescend, et ben là, d'un coup, tu te dis, y a un truc bizarre dans ma main. Et là, je te jure, il m'enlève le gant, la main est gonflée à vue d'œil, il dit, oh là 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 là.
Ah, il en
va. Et bon, fracture, tout ça. Et puis, malgré tout, c'est monté tranquillement. Et là, après de 9 ans et 10 ans de bourlinguerie, si je peux dire. tu vois, on est arrivé malgré le peu de moyens, pas des salles high tech et tout, on est arrivé au Bellator avec mon coach. Et du coup, maintenant, je suis combattant Bellator, j'ai un contrat de 4 combats pour le moment. Bon, avec le Covid et situation, on sait bien que c'est un peu galère.
Ouais, bah.
Mais euh, le contrat est dans la poche, on va représenter la France, on va représenter la Normandie et au plus haut niveau mondial. Donc,
magnifique, magnifique. Mais d'ailleurs, là, ouais, on était ensemble là, pour le combat qui aurait dû avoir lieu. Là, tu devais combattre normalement pour le précédent événement au Bellator. Et on avait fait la prépa ensemble, la mobilité et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi tu n'avais pas combattu?
Eh ben, tout simple. Donc, ouais, comme tu dis, la prépa top. Mais déjà, tous les deux, on avait attaqué déjà pendant le premier confinement.
Ouais.
On avait parlé tout ça. Donc, déjà, physiquement, j'étais bien.
Ouais.
Donc, c'était. Mais si, mais attends, parce que j'ai. Ah non, ça faisait un an, c'est ça. Et du coup, donc, prépa nickel. On fait ça avec toi. Bah, t'as bien vu, on était au taquet. La prépa s'était bien passée. J'arrive là-bas, donc on est sur Paris. Donc, t'arrives là-bas, c'est test Covid. Donc on arrivait direct, test Covid, et après on était 24 heures dans la chambre. Donc 24 heures dans la chambre, tout ça, bon, t'es au régime. Et le truc de fou, hein, c'est t'es au régime, bon, c'est super, hein. Et ils te livrent les repas devant ta porte. Sauf que toi, t'as pas le droit de manger, ou très peu, ou c'est vraiment une alimentation stricte. Et là, je te jure, tu ouvres le carton, tu vois du pain, des trucs, et t'as rien le droit de manger.
Ah,
ça, c'était la première étape. Ça c'était la première étape. Donc du coup 24 heures de confinement, et après dès qu'on a le résultat, boum, on pouvait bouger entre guillemets, parce que fallait rester quand même dans l'hôtel et tout et tout. Donc du coup on reste dans l'hôtel, on fait tout ce qu'il y a à faire, test le lundi, le mardi, test fièvre, enfin vraiment au taquet. Moi je reste dans ma diète, je descends au poids 72 kilos, j'étais nickel, j'allais même pas avoir besoin de faire cutting, bain chaud ou quoi. Et le mercredi, Samuel Jude, le matchmaker du Bellator, je me rappelle, on était dans le réfectoire, et il m'envoie un message, il dit tu peux venir me voir s'il te plaît. Je dis bah ouais, mon coach il fait oh, il disait rien mais bon. Et on arrive et en fait mon adversaire a été testé positif au Covid.
Ouais.
Je crois, elle est peut-être une demi-heure après, il était déjà parti de l'hôtel.
Ouais.
Et ils m'ont dit quand même reste au poids, on a un adversaire pour toi. Je dis ok. L'adversaire qui me propose, le mec c'est un 70 kilos, un gros 70 kilos.
Ouais.
Et là il me dit il est à 80 kilos. Je dis ok. Je dis mais moi je suis à 72, limite 71,5, je crois, c'est chaud.
Ouais.
Et en fait je leur ai demandé 75, ok je le prends. Et sauf qu'ils disent non c'est trop dangereux pour sa santé. Je dis mais attends. Le mec, on est à 4 jours du combat, il y a 5 kilos à perdre. Ça veut dire qu'il va en perdre un ou deux en faisant attention à ce qu'il bouffe. Il fait un petit cutting, voilà quoi. Ça se perd
c'est jouable.
En 3 jours, c'est réglé. Mais ouais, tu sais bien ce que c'est. Même si c'est pas top, tu sais ce que c'est. C'est jouable quoi. Et en fait, il a dit non, trop dangereux pour sa santé. Et mon coach a creusé. En fait, le mec était à 84, 85 kilos. Et du coup, c'était pour l'affronter un mec 2KT au-dessus de moi. Et bon, pour une entrée en matière, c'était pas
raisonnable.
Donc, ouais, pas raisonnable du tout. Et donc le mec a compris et Samuel Jude a annulé de lui-même et il a dit non, fais pas le combat, voilà. Et après il m'a quand même dit reste au poids, on sait jamais.
Ouais.
Je suis resté au poids encore une journée et après la conférence de presse, il m'a dit non, bon, on a plus besoin de toi, tu peux te détendre.
Putain. Et comment tu l'as vécu justement cette partie-là un peu émotionnellement, tu vois, parce que le Bellator, pour ceux qui savent pas, qui suivent pas trop le MMA, ça reste quand même la seconde plus grande organisation de MMA. Donc
ouais.
Comme l'UFC, tu vois, c'est les organismes qui gèrent la création de ces événements sportifs dans lesquels ils rassemblent les combattants, donc les athlètes, mais aussi ils gèrent toute la partie marketing, la vente des billets, l'installation de la cage, la sécurité, les médecins, les tests, etc. Donc c'est eux, c'est une entreprise d'événementiel, tu vois. Et toi, tu es comme un prestataire de service, tu vois, t'es comme un intermittent du spectacle, tu rentres, tu fais ta performance et tu sors. Donc ça, c'est un peu le résumé rapide pour les gens qui savent pas comment les structures des combats fonctionnent. Et, yes. Et justement, le Bellator, c'est mondialement connu. Et pourtant, tu vois, il y a ce type de comportement, les choses un peu faites à la va-vite. Et donc ça, c'est un peu, quand t'es dedans, tu vois, tu le sais. Mais quand t'es en dehors et que tu vois le glamour, les paillettes, les rediffusions, les highlights sur YouTube et Instagram, tu te dis pas qu'à l'intérieur, en fait, c'est encore un monde qui a vraiment besoin d'évoluer, parce que la manière dont ils traitent les athlètes, les artistes, des fois c'est pitoyable, tu vois. Et donc toi, justement, cette première expérience avec le Bellator, comment tu l'as vécu émotionnellement, tu vois, sachant qu'il y a tout le background, la prépa physique, la sèche, mais il y a aussi les déplacements, il y a aussi l'argent, tu vois, l'investissement. Donc, dis-nous-en un peu plus sur cette partie émotionnelle.
Eh ben, honnêtement, je le prends vraiment pas bien. J'étais dépité. Ouais. Comme tu dis, c'est quand même. Enfin, on était sur 2 mois de prépa. Avant ça, bah, tu continues à te préparer et tout. Donc du coup, c'est du temps que tu passes pas avec tes enfants ou avec ta femme, quoi. Normal. Donc c'est quand même pesant, même si c'est une passion et c'est un bonheur de m'entraîner.
Ouais.
Après, il y a la partie diète. Donc la partie diète, heureusement, j'ai un nutritionniste qui me suit, Fournier, qui est très calé et qui me permet, comment dire, de manger vraiment à ma faim et de pas avoir de carence, d'être en forme, mais en même temps de descendre le poids tranquillement.
Ouais.
Donc du coup, c'est quand même des sacrifices, et sur le coup, en fait, c'est la faute de personne, parce que clairement, c'est le Covid, c'est comme ça. Le mec, il est covidé, c'est normal qu'il protège et qu'il me protège. Ça, je comprends totalement. Mais le petit combattant qui est en toi, il se dit attends, on s'est préparé, mais là, t'as pas eu ton nonos, quoi. Le nonos pour un combattant, c'est l'affrontement, quoi.
C'est
rentrer dans la cage. Pour moi, c'est pas une punition de rentrer dans la cage. C'est ce que je dis. Moi, quand je rentre dans la cage, il y a aucun autre endroit au monde où je voudrais être. Je suis dans la cage, je suis bien, je suis chez moi. Bien sûr, quand tu montes, t'as le petit coup d'adrénaline. Mais après, quand le gant il touche ou que tu prends la première patate, hein, et ben là, toi, tu communiques avec ton adversaire, t'es chez toi, t'es bien, même si c'est entre guillemets, les gens des fois ils voient que le côté bagarre. Là en fait, pour moi c'est pas de la bagarre, pour moi c'est je joue mais je communique avec mon adversaire, je crée de l'art avec mon adversaire, je fais vraiment un show à part entière. Et du coup, moi j'ai eu tout le côté prépa régime. Et j'ai pas eu mon nonos, j'ai pas eu mon sucre, tu vois, j'ai pas eu le sucre qui me fait le petit coup d'adrénaline, ma dose d'adrénaline, et sur le coup, je l'ai mal vécu. J'étais dans ma chambre d'hôtel, heureusement il y avait mon coach, et encore, ils m'ont mis moi dans une chambre et mes coachs dans une autre. Et tu vois, ça, c'est, tu te retrouves tout seul des fois avec toi-même, tu cogites un peu, quoi.
Ouais, ben.
Et du coup, je l'ai assez mal vécu. Après, le Bellator, honnêtement, ils y sont pour rien. Ouais. Le seul truc, tu vois, c'est que je suis pas sorti de la chambre d'hôtel. Le vendredi, le jour de la pesée, on descend pour aller au petit déjeuner parce que j'avais le droit, donc crois-moi que j'allais me faire plaisir quand même. Et donc du coup, il me dit bah va faire le test. Je fais mais je combats plus, j'ai plus de pesée, j'ai pas de test à faire. Il fait si vas-y, donc j'y vais. Le test est fait un peu à l'arrache. Ceux qui ont déjà fait un test Covid, ils savent. C'est les deux narines, ça reste 10 secondes dans la narine. Et là, c'était pas comme ça, tu vois. Et le vendredi soir, on va manger au réfectoire. Et là, il y a un mec qui vient me voir, il fait « Ah, Davy, ça va ?» Il fait « Je peux te parler ?» Je suis « Ouais. » Je me mets debout. Et il me fait « Non, suis-toi, t'inquiète, y a pas de souci. » Il me fait « T'as 20 minutes pour dégager de l'hôtel. »
Mais non.
J'étais positif Covid. Je te jure, mais j'ai halluciné. Hein. Même là, quand j'en parle encore, des fois, j'hallucine. Et on est en train de manger en plus devant tout le monde. Hein. Et il me dit t'as 20 minutes, tu remontes dans ta chambre d'hôtel, tu prépares tes affaires, tu sors. Waouh, mais net comme ça, tu vois. Et là mon coach il commence à péter un câble. Il fait non mais attends, on est en train de manger. Il fait tu peux nous respecter au moins, attends, tout ça. Et l'autre il répond, il commence à s'énerver, sauf que ça a gueulé, mais un truc de mal, t'aurais vu le.
C'était un sketch.
Ah ouais, ah non mais l'anarchie, c'était un sketch. Donc moi, je dis bon bah attends, vas-y, je prends mon assiette, je monte dans la chambre d'hôtel, tranquille.
Ouais.
Et attention, s'il nous sortait de l'hôtel, c'est-à-dire il nous sortait comme des malpropres. Il nous mettait sur le trottoir, rien du tout, tu vois, après on s'est merdé. Avec des mecs, des boxeurs, parce qu'il y avait gala de boxe anglaise, ils ont jarté des boxeurs d'Aix-en-Provence, ils les ont mis sur le trottoir, et ils leur ont rien donné, hein.
Mais
ils
non.
Ils ont démerdé pour rentrer, billets de train et tout, hein.
Oh putain, la galère.
Alors c'est pas tout le staff du Bellator, mais il y avait 2-3 mecs qui étaient irrespectueux, tu vois.
Ouais, bah ouais.
C'est pas le Bellator, c'était des sous-fifres, quoi, on va dire. Ah ouais, non mais c'est de pitié. Et imagine, il me dit j'ai le Covid. Je dis, bah attends, je dis, comment j'ai fait? Je me désinfecte les mains, je suis pas sorti.
Ah, c'est clair, c'est pas possible.
Je ne faisais la bise à personne. Je dis, comment c'est possible? Surtout que là, au début de semaine, j'étais négatif, quoi.
Ouais.
Bref. Donc, mon coach, moi, je monte dans la chambre, je prépare mes affaires, bref. Et heureusement que mon coach a gueulé parce que du coup, ils nous ont dégoté taxi et une autre chambre d'hôtel. Alors pareil, moi je comprends pas, t'es covidé, normalement tu restes dans ta chambre et puis après tu repars le lendemain et t'évites de... Là, ils nous ont mis dans un autre hôtel. Donc ça veut dire que si je suis covidé, je contamine un autre hôtel, quoi. Donc, tu vois le truc. Sur le coup, on est perdu total. Et bon, bref, je rentre et comme la plupart des mecs qui ont été testés positifs sur le Bellator, ils se sont refait un test. En fait, ils étaient négatifs, comme Cyril Diabaté qui coachait ses gars, tu vois.
Ouais.
Sauf qu'il a même pas été, il a même pas eu le droit de revenir pour recoacher ses gars. Enfin bref, c'est une autre histoire. Et moi, j'arrive le samedi, donc le lendemain, je refais un test chez moi au Mans, enfin pas loin de chez moi au Mans, et je reçois les résultats le dimanche et c'est négatif. Le lendemain, j'étais négatif.
Mais mec, toute cette histoire de Covid et de tests, ouais. c'est n'importe quoi en fait.
Mais oui. Et du coup, en fait, j'avais pas du tout le test Covid.
Ouais, bah.
Je chartais comme un mal propre, et voilà quoi. Bon, même s'ils avaient un protocole, je les comprends total, mais.
Ça a à voir aussi avec la politique de ces organisations, de ces organismes. Mais c'est vrai que là, dans la plupart des shows comme ça, que ce soit pour les combats ou pour les autres sports, même la danse et tout, c'est pareil. En fait, les mecs, ils essayent toujours aussi d'économiser à fond leur argent, tu vois.
Et donc,
tu dis un minimum quand même, un minimum de respect pour les personnes qui font le show, parce que sans ces personnes, bah, tu vends pas de place, tu vois. Mais c'est vrai qu'ils ont cette tendance, en fait, c'est le seul aussi, c'est le seul, on va dire, le seul aspect de leur business sur lequel ils peuvent faire des cuts, parce que, tu vois, pour les hôpitaux, pour les frais d'installation, etc., bah, généralement, tu peux pas économiser, tu vois. Et donc, ils économisent toujours sur l'argent qu'ils donnent aux combattants, les bourses, ou aux danseurs, etc., dans les autres shows. Et ça, c'est vrai que c'est dommage. C'est pour ça que tu as ce genre de situation un peu conflictuelle. Et là, j'imagine même pas, en plus, en temps de Covid, la galère que ça devait être, tu vois.
Mais même pour eux. Et puis, tu vois, ils sortaient, ils avaient organisé, je crois, c'est 5 shows en 15 jours.
Ouais.
Donc c'était dans le rush, tu vois bien que c'était fatigué.
C'est clair. Non, bah après voilà, ça se comprend, c'est vrai que c'est au moins t'as l'honnêteté de dire que c'est pas une critique du Bellator et que c'est juste c'est un moment de vie, tu vois. C'est un moment de vie. Mais là justement d'ailleurs, j'aimerais revenir sur un point que tu mentionnes, et c'est vrai que nous on a tendance à en parler assez facilement. Quand je dis nous, c'est un peu les gens qui ont fait des sports de combat et qui ont fait de la compète. C'est la partie sur ce que toi t'appelles cutting, la sèche, la perte de poids. Moi, c'est des questions que j'ai beaucoup, et souvent les amis ou les personnes avec qui je parle, quand je leur explique à peu près ce que c'est un cutting ou ce que c'est une perte de poids, ils sont choqués en fait, ils y croient pas. Et donc j'aimerais bien là que tu nous partages un peu tout le processus, depuis ta préparation physique, depuis en fait le moment où tu as une annonce de combat, admettons qu'elle est à 3 mois, tu as 3 mois pour te préparer. Comment ça se passe en termes de la gestion du poids et pourquoi déjà tu dois faire tomber ton poids?
Donc, en fait, là, le terme, pourquoi on perd le poids, c'est parce que tu as un poids de forme, et ce poids de forme-là, en fait, du coup, on va le garder hors prépa de combat pour vraiment être dans la vie normale, pas se fatiguer, garder son énergie au maximum dans cette prépa. Quand il y a l'annonce du combat, donc moi je suis en moins de 70 kilos. Bon attention, je suis un petit moins de 70 kilos. Je suis quand même un des mecs qui a 70 kilos qui est quand même assez lourd en poids de forme. Je suis à 79 kilos en poids de forme. Donc ça me fait 9-10 kilos à perdre, pendant ma préparation. Le but c'est d'être le plus puissant possible dans sa caté. Donc ce que tu fais c'est que tu te pèses au poids de la caté et ensuite on fait ce qu'on appelle un rebond glycémique pour regagner ce poids de forme, pour regagner l'énergie et être plus lourd que le poids que tu t'es pesé. Donc t'es plus puissant, t'es plus lourd et du coup il y a des mecs qui jouent là-dessus. Par exemple, t'as des mecs en 77 qui sont Georges Saint-Pierre, je crois il était à 100 ou il était des fois il monte à 97 ou 100 kilos, je crois, alors que c'était à moins de 77 kilos.
Putain.
Et ah ouais, mais c'est un truc de malade. Moi je suis un mec qui fait des petits régimes, on va dire.
Ouais.
Et les mecs, bah tu vois, ils se pesaient. Bon encore, c'était bien fait, Georges Saint-Pierre et tout. Il y en a, c'est beaucoup bien fait. Tu vois, ils arrivent sur la pesée, le cœur, c'est bah. Regarde Khabib, son dernier combat, Khabib Nurmagomedov, qui est champion lightweight de l'UFC, donc poids léger de l'UFC. Le mec, voilà, il est vraiment, 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 vraiment fort. Et il perdait le poids. Lui, son combat, c'était le poids. C'est-à-dire, il arrivait sur la pesée, il était tout blanc, limite à tomber.
Ouais.
Tu vois, ça, c'est pas quelque chose qui fait rêver, et ça ne me fait pas rêver moi non plus. Mais les mecs, en fait, ils essayent de sécher un max, faire un gros rebond glycémique pour être plus lourd, plus grand et plus puissant que le mec en face. Donc, c'est ça le but de la perte de poids.
Et là, justement, moi, souvent, quand j'explique un peu cette partie-là, on pose la question suivante, on fait, bah alors, pourquoi ne pas combattre à ton poids de forme? Comme ça, ça t'évite de perdre le poids, en fait. Parce que c'est chiant.
Ben, c'est ça. C'est vrai que, comme tu dis, pourquoi pas combattre à son poids de forme? Et bah parce que les mecs, toujours, à partir d'un moment, quand t'as les mecs à l'UFC qui touchent, alors je sais pas, il y en a qui touchent 250 000, il y en a qui touchent 500 000, hors sponsor, 500 000 dollars, à partir du moment où t'as les gros sous, t'as les gros chéchèques qui sont en jeu, t'as envie de mettre le plus de chances possible pour gagner.
Ouais.
Et bah pour certains combattants, c'est le meilleur moyen d'être le plus fort, d'être le plus en forme dans leur caté, ouais. Donc d'être le meilleur, donc de toucher le plus de sous.
Parce que généralement, si les deux combattants ils font cette perte de poids et qu'après ils font ce rebond glycémique, est-ce qu'ils arrivent à peu près au même poids de toute façon dans la cage, ou tu sais très bien, dépendant le, bah, en fait, tu faut connaître son corps quoi. Il y a des gens qui arrivent à faire des gros rebonds et perdre beaucoup de poids par rapport à d'autres. Donc si par exemple on doit combattre tous les deux à 70 kilos et que toi ton poids de forme c'est 85 et le mien c'est 80, moi même avec un rebond glycémique j'arriverai peut-être à 77 78, toi il y a moyen que tu sois à 81, tu vois.
Ah bah mais clair là, tu vois, il y aura ce petit avantage là. Après ça veut pas, attention, ça veut pas dire que le mec qui est plus lourd va gagner le combat hein. Ça c'est clair et net. Par exemple, moi j'ai fait un combat alors c'était j'enchaînais, j'avais fait un combat de kickboxing contre le champion du monde à Caen, et lui il était à 79 kilos et moi j'étais déjà au poids, je devais être à 77 78, tu vois.
Ouais.
Donc c'est à peu près mon poids de forme, hein, entre 78 et 80, ça oscille. Et du coup j'avais combattu un Polonais en MMA deux ou trois semaines après, je crois.
Ouais.
Et lui c'est un 77, mais un gros 77. C'est un mec, il est ouais, je sais pas, il doit peser peut-être 90 kilos hors régime, tu vois, il a 13 kilos à perdre. Et je te jure, donc moi je me pèse, mais enfin easy, j'étais à 77 sans faire, je mangeais la veille, tu vois, donc c'est pour te dire. Et lui il se séchait un truc de ouf et il faisait un gros rebond glycémique, mais dans la cage. Donc attention, il avait pris deux tailles. Hein. Je sais pas comment il avait fait le mec, ouais. Les hormones de croissance entre les deux, ou il avait mangé un enfant ou quelque chose, je sais pas. Je sais pas. Et on se retrouve dans la cage. Et tu vois, à part le fait que je le perds à la décision ce combat, mais honnêtement, je me suis jamais senti en danger. Le seul truc que j'ai senti, c'est quand il m'a attrapé les jambes en lutte. Donc la défense était bonne. Par contre, quand il m'a amené au sol, j'avais l'impression d'avoir une plaque de marbre sur moi.
Ouais, voilà.
C'est-à-dire, j'arrive au premier round. Ah
non, mais vas-y.
Ah oui. Et du coup tu l'as dans la garde, donc moi je commence, j'essayais de bosser tout ça, je mets la main, je commence à pousser, je dis oh là là, je dis là ça va être lourd, par contre pas en danger. Et ce mec là j'ai failli lui mettre KO, deuxième round je crois, deux ou troisième round. Et le seul petit avantage qu'il va y avoir, c'est sur ces phases là sur les phases où le mec et en monter sur toi, où il prend un contrôle latéral, de recomposer, de reprendre ou te relever, c'est le seul moment qui va être dur si le mec est plus lourd que toi.
Ouais, bah.
Mais après ça lui donne rien de plus. Hein. Il peut avoir des gros pecs, des gros bras. Quand il va prendre une patate, il va prendre une patate. Hein. Ça va être la même chose.
Ouais, c'est vrai que c'est dans ce sens-là que les gens le perçoivent pas. Tu vois, ils se disent, bah si le mec est plus lourd et plus gros, il va frapper plus fort, etc. Mais pas nécessairement en fait. Tu vois, si le mec il est de base, il est très lent, il est peu coordonné, il a peu de combinaisons, etc. Bah en fait tu peux largement gagner à la technique et après voilà, le seul avantage du poids c'est dans les phases de lutte ou quand quelqu'un est au-dessus de toi, bah ouais là c'est très très dur et comme tu dis tu consommes plus d'énergie en fait à essayer de te relever, à essayer de repousser la personne, mais voilà, mis à part ça il y a pas vraiment gros avantage à être, genre, je sais pas, 5 kilos plus lourd. Mais par contre, c'est vrai que voilà, le danger aussi, il est présent pour la personne qui est un peu plus légère. C'est que si le mec frappe bien et que tu te le prends, c'est vrai que son bras, il est plus lourd. Donc, t'as un objet qui est plus lourd, qui vient sur ton visage, et donc le choc, il est plus important, tu vois. Donc, c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça qu'un peu le, il y a ce danger aussi à promouvoir un peu les, trop de perte de poids. Même si, tu vois, on sait que les États-Unis, ils sont très bons là-dedans, tu vois, avec leur lutte. Moi, quand j'étais à Vegas et que je préparais d'autres combattants, il y avait des mecs dans le sauna avec nous qui étaient, genre 2 jours avant, ils avaient encore 17 kilos à perdre, tu vois. 2 jours avant. 13 kilos 5, 14 kilos à côté. Et nous, on était là, on avait que quelques kilos à perdre la veille. Il y en avait un, il se dit, bah, moi, ça fait déjà 10 heures que je suis là, tu vois. Et il avait deux coachs avec lui, il enchaînait entre le sauna méga chaud, un peu d'eau froide sur la tête. En gros, il le vidait, mais il le vidait de son âme, en fait. Le gars, c'était un zombie. Et voilà. Et après, le lendemain, t'as un rebond glycémique. Le gars, il a l'air en forme. Et après, évidemment, le mec, il doit prendre 2-3 semaines pour se remettre déjà de nouveau à pouvoir lire, quoi.
Grave. Mais, mais c'est moi, c'est ce que très je intense, pas, tu vois. Vois. Je préfère avoir un mec plus lourd en face de moi et moi être un peu plus léger.
Ouais.
Mais par contre, pas mettre, tu sais, parce que mine de, ton corps, il se fatigue, ton cœur se fatigue. Et sur le long terme, c'est pas bon pour le physique. Hein. C'est pas du tout bon. Ouais.
C'est clair. Mais justement, là, dans cette phase, c'est quoi la différence entre la perte de poids que tu vas pouvoir opérer au cours des 2 mois de préparation, par exemple, et cette dernière phase dont tu parles, qui est le cutting?
Donc, ta perte de poids, là, honnêtement, ça va pas être une grosse diète. Attention, c'est pas Weight Watcher ou des trucs comme ça, tu vois. c'est des conneries. C'est juste, en fait, on va jouer sur... beaucoup de personnes parlent, tu sais, du jeûne intermittent. Toi, tu le pratiques aussi, le jeûne intermittent, tout ça. Le jeûne intermittent, moi, je l'utilise comme un outil. C'est-à-dire, par exemple, là, je vais être en période de combat, je vais être sur un jeûne intermittent. Mon jeûne intermittent, c'est pas le même que le tien ou que quelqu'un d'autre. Chacun sa propre technique de jeûne intermittent. Avec mon nutritionniste, moi, ce qu'on fait, c'est que j'ai pas de petit-déj, juste par exemple café ou thé ou voilà ce que j'ai envie. Je fais du cardio cool, donc 30 minutes de cardio cool à jeun. Mon premier repas va être vers 14h 15h. À partir de là, j'ai mes autres entraînements, tout ça. Et le dernier repas va être dernier cara 21h.
D'accord.
Ça veut dire qu'en fait de 21h à 15h le lendemain, je ne mange pas. Et c'est ça qu'on appelle un jeûne intermittent, en fait.
Ouais.
Et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et après, moi, le jeûne intermittent, ça m'a permis de, par exemple, d'avoir des bonnes doses de protéines, des bonnes doses, comment dire, de légumes, de lipides. Et on joue avec ces différentes quantités pour avoir l'énergie nécessaire à m'entraîner. Et pour m'entraîner, pardon. Et aussi, quand je suis dans ce jeûne intermittent, c'est les doses de lipides que j'ai dans le corps, et ben ça va venir taper dedans mon corps et dire j'ai besoin d'énergie. Alors attention, c'est pas le sucre ou ces conneries là hein. Même si je dis pas qu'il faut le supprimer, mais le sucre faut le réduire à fond. Mais justement, dans les phases de jeûne, et ben le corps, il va se dire attends, j'ai besoin d'énergie, je vais taper où? Et là, c'est là qu'il va chercher, il va dire tiens, il y a de la graisse ici, je vais le prendre comme énergie. Et c'est comme ça que je vais commencer à descendre le poids, à enlever cette masse grasse, à garder cette masse musculaire et à faire descendre le poids en mode bien-être, en mode santé.
Ouais.
Et ensuite... C'est comme ça que je l'utilise. Hein. C'est comme ça qu'on l'utilise. Et ça, c'est la perte de poids. Après, le cutting, on va pas le dire sur une... Ça va pas être une perte de poids, de gras ou quoi que ce soit. Le cutting, c'est en fait, on enlève la flotte. Donc, ça veut dire que, par exemple, moi, je vais réduire le repas, je vais descendre en poids. Et 2-3 heures avant la pesée, on se lève tôt le matin. Là, je vais faire mise en route pour commencer à activer le corps. Ça peut être un peu de cardio léger. Et ensuite, je vais aller dans le bain chaud. Et le bain chaud, c'est un peu le principe du hammam, du sauna, quoi. Et donc, je reste 20 minutes. Là, on va faire monter la température corporelle pour activer la sudation. Et on va enlever la flotte au maximum. Alors attention, sans forcer, tu peux perdre... Allez, en 1h30, je me suis fait perdre 3 kilos, par exemple.
3 kilos d'eau, pure eau.
De Ouais, c'est ça, que de la flotte, hein, que de la flotte. C'est pas du tout à mettre dans le cadre d'un régime. Hein. Je conseille pas aux personnes
Bien
de faire
sûr.
un cut pour une perte de poids, par exemple. Il y en a, ils me disent, ah oh, bah faut que je fasse ton truc. Je fais non, 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 non. Je fais, t'as pas compris là. Je fais là, c'est pour respecter mon poids, c'est un cutting. Je fais, toi, faut que tu fasses un régime.
Ben oui, ça marche
Ah
que
ouais.
dans le contexte d'avoir une pesée et d'atteindre un chiffre sur une balance. Mais c'est pas une manière saine de réduire son poids vu que tu es en train d'enlever l'eau et tu es
C'est ça.
70% composé d'eau. Donc faut pas enlever l'eau de son corps. Et il y a des
Ah
gens
bah non.
justement qui voient les combattants, par exemple, le jour de la pesée. C'est là où esthétiquement on est le plus sec, le plus dessiné, mais on ressemble pas à ça au quotidien. Ça, c'est impossible à maintenir parce qu'il n'y a pas d'eau dans ton corps, ou en tout cas, tu en as enlevé pas mal. Et toi,
Bah ouais.
ce que tu nous décris, tu vois, c'est quelques heures avant la pesée, mais il y en a, ça commence, moi, j'ai déjà fait des cuttings 4-5 jours avant, tu vois,
Ah
où
ouais,
là,
non mais c'est fou.
progressivement, y a différentes méthodes. Donc, par exemple, tu peux jouer en fait sur le réflexe de ton corps pour pisser en fait tout simplement le flush quoi, le
Mais
système de flush. Et toi, est-ce que t'as déjà fait ce genre de choses?
par
Raconte-nous un
exemple
peu.
le fait que tu sais j'hydrate en fait il y a des gens pareil bah, moi je le fais que 2-3 heures avant mais ça m'est déjà arrivé sur mes premiers cuttings qui étaient un peu plus difficiles par exemple de boire beaucoup de flotte. Les gens ont tendance à dire ouais je dois perdre du poids je vais réduire l'eau mais non mais non mais non mais non vaut mieux réduire la nourriture. Parce que forcément, tu manges beaucoup, voilà, ton corps, il est déjà chargé en lipides,
Ouais.
en protéines, enfin, t'as ce qu'il faut, t'as ce qu'il faut en toi. Par contre, l'eau, c'est indispensable. C'est indispensable déjà pour ton corps, pour ta vie, c'est indispensable. Donc du coup, pareil sur un cutting, moi, je vais réduire la nourriture avant et juste. Quelques heures avant, je vais enlever la flotte, je vais couper complètement la flotte. Et là, ce coupage d'eau, je le combine, comme tu dis, avec j'ai le droit à un peu de café, un peu de thé. Et on a tendance, c'est diurétique. Et du coup, là, comme tu dis, on va jouer sur le réflexe, sur ce réflexe, on va pisser. D'ailleurs, un thé, on appelle ça un pisse-mémé, tu vois
C'est ça.
ce que je veux dire. Donc, le thé vert à fond, et voilà.
Et donc c'est ça en
Après,
fait. Il y
par
a
contre, je sais pas qui
plusieurs.
c'est. Il y a un pote, il me disait, je crois qu'il y a des cachets ou des pilules. Ça, tu sues de ouf et tu pisses beaucoup plus. Ça, j'ai jamais fait ça. Ça,
Ouais, bien sûr.
j'aime pas
Après, il
mettre des trucs
y a
bizarres dans mon
plein de
corps.
techniques, tu vois. Il y a des choses aussi qui sont, par exemple, on va dire à l'ancienne, les boxeurs, ce qu'ils faisaient, c'était simplement courir, en fait. Tu peux courir 15 heures, quoi, quasiment, et t'enlèves tout ça. Mais sinon, moi,
C'est ça.
ce que j'ai pu faire, moi, dans mon expérience et avec certains de mes athlètes, c'est, un, ce dont tu parles, c'est-à-dire quelques heures avant la pesée, on va dans un sauna et on enlève de l'eau, on transpire. Ou bien, tu fais, par exemple, les bains chauds avec le gros sel. Donc tu fais un bain chaud d'eau très très chaude, tu mets la personne dedans avec du gros sel, comme ça aussi ça capture, enfin tu transpires et ça part de ta peau en fait, tu vois. Et tu combines ça par exemple 10 minutes avec 10 minutes où tu l'enveloppes de
C'est
serviettes
ça?
et de couvertures et tu laisses que le visage. Et donc alterner des rounds de ça en fait, tu peux faire 3 à 4 rounds dépendant et tu te pèses à chaque fois jusqu'à enlever beaucoup beaucoup d'eau. Donc ça aussi en termes de torture mentale c'est pas mal, tu vois, il y a l'eau quasiment quasiment bouillante. Parce qu'encore le sauna tu te dis bon c'est pas grave, c'est comme un hammam si t'en as déjà fait, voilà tu peux résister et tout. Même si évidemment plus t'en perds et plus t'es faible, donc c'est jamais à faire tout seul évidemment, tu vois. Le problème aussi
Ah
des
ouais.
les c'est un peu le sujet qui est corrélé à celui-là, celui des cuttings, c'est la mort en fait, la mort des athlètes. Déjà dans les sports de combat, honnêtement, les athlètes qui en meurent, j'ai pas de statistiques, mais c'est la grande majorité, c'est pendant cette phase-là, c'est pas du tout pendant le combat. Le combat, il est rarement mortel. Mais par contre, quand tu fais des cuttings qui sont mal faits, c'est là où justement tu mets ta vie en danger. Et comme tu disais tout à l'heure, le
Exact.
vrai combat, c'est le cutting. Le vrai combat, c'est la perte de poids. Après, le combat, c'est
Ça.
la partie qui est fun, parce que t'as envie d'essayer tes compétences, d'essayer tes techniques. C'est comme un jeu vidéo.
Yes.
Mais c'est la partie juste avant qui est horrible. C'est la perte de poids et c'est le cutting. Et donc c'est là où les athlètes se mettent en danger. Il y avait une histoire aussi il y a quelques années, je crois que c'était une fille qui faisait justement son cutting. Elle avait décidé de courir, mais elle courait en Australie, mon gars, sous une chaleur et elle en est morte en fait. Elle est partie, elle est jamais revenue. Et donc tu vois, c'est ça en fait qui est tragique, qui est dramatique, c'est que quand t'expliques pas aux gens ce qu'ils doivent faire et quand c'est pas contrôlé et surveillé, surtout chez les
ça,
amateurs ou
c'est
les gens
pas
qui
contrôlé,
n'ont pas de coaching ou pas de soutien, c'est là en fait où tu prends le plus de risques. Mais après, en soi, les techniques qu'on utilise, que ça soit le sauna, le bain d'eau chaude, le gros sel, la combi de sudation avec un peu de shadow, ou bien justement le pisse mémé, tu vois, dans tous les cas, c'est on joue pas avec des choses qu'on connaît pas. C'est étudié, on sait comment faire perdre de l'eau au corps. C'est pas mystique ce truc-là. Donc le danger, il vient pas de là. Le danger, il vient de quand c'est mal fait et quand après
c'est
surtout le
ça.
rebond, il est mal fait parce que là, tu mets un athlète, tu mets le corps de quelqu'un dans un environnement qui est très dommageable parce qu'il reçoit des coups et s'il n'est pas bien réhydraté, et ben évidemment l'eau t'en as besoin pour tout, pour faire fonctionner tes organes, pour faire fonctionner ton cerveau également. Donc quand tu prends un coup à la tête, un
Okay.
coup de pied à la tête alors que t'as pas assez d'eau, ben c'est là aussi où tu prends le risque d'avoir des commotions cérébrales. Donc en gros le gros sujet du coaching et le danger c'est celui-là, c'est quand c'est pas bien fait en fait tout simplement.
Bah c'est exactement ce que tu dis, c'est le manque de suivi. Alors je sais pas comment, s'il y a certains coachs, je sais pas s'ils en ont rien à faire ou comment dire, ou si vraiment c'est juste, tu sais, ils ont une salle, ils ont 10 000 athlètes et voilà quoi, c'est le mec, c'est juste un numéro et t'es au poids, t'es au poids, c'est bien, t'es pas au poids, c'est pas bien. Je m'en fous de quelle façon t'es au poids, mais tu dois y être, quoi. Et donc le mec, tu sais, il se sent un peu bloqué, un peu dans ces, un peu, ouais, je sais pas, il se dit merde, je vais prendre une cartouche, je vais me faire virer de la salle si je suis pas au poids. Et comment dire, et il fait mal, il fait mal, il fait mal. Et comme tu dis, il y a des mecs. Ils ont l'impression, tu sais, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est dur. Honnêtement, tu vois, moi, ça fait des années que je le fais. Le bain chaud, maintenant, je prends plus ça comme une torture. Honnêtement, moi, je fais un cutting maintenant dans le bain chaud, je me détends. J'ai l'impression, des fois, je perds mon poids, j'ai pas l'impression que d'être au boulot ou que ce soit dur. Tu vois, je prends mon bain chaud parce que, bon, en fait, le bain chaud, il a pas besoin d'être forcément hyper chaud. Il y a une technique, en fait, ton bain chaud, il peut être juste. C'est 3 à 4 degrés au-dessus de ta température corporelle. Tu vois? Et là, tu restes 20 minutes. Et après, tu fais, allez, 5 à 10 minutes. Et pareil, là, tu rigolerais. Moi, j'ai ma sudie. Je mets mon bonnet. J'ai mon duvet. Alors, je prends mon duvet. Je me fous là-dedans. Et puis, je regarde des vidéos sur mon téléphone. Bon, certes, je suis un peu pâle et j'ai les lèvres sèches. Tu sais, les lèvres craquelées, il y a des gerçures. Mais c'est pas aussi terrible, tu vois, c'est pas
Ouais,
aussi
bah,
terrible.
chose que tu
Mais
veux dire.
parce que, pareil, ça fait 9 ans que je le fais, on m'a appris à le faire, et j'ai mon coach qui est à côté de moi et qui me surveille au maximum.
Ouais, voilà, c'est pas. Il y a un peu cet idéal aussi, genre romanesque, du combattant, guerrier, tout seul dans le désert, à courir avec la combi de sudation, comme les vidéos qu'on peut voir de Mohamed Ali ou des gens comme ça à l'époque.
Yes.
Attends, c'était qui à l'époque? C'était Marvin Hagler, mec. Oh, il y a une vidéo qui
Ah.
tourne. Marvin Hagler, pour ceux qui savent pas, c'est un boxeur légendaire qui est aussi parti, je crois, sur
Ouais.
un record. Un touché, je crois. Il avait zéro défaite. Je suis pas sûr, mais je crois que Marvelous Hagler, c'est à
Axel.
vérifier. Mais c'était un des quatre rois, tu vois, les Four
Ah bah
Kings,
c'est
avec
lourd, Marvin Hagler.
Sugar Ray Leonard,
Ouais,
avec
ouais.
Mano Di Pierre, là, comment ça s'appelle, là, les mains de pierre, là,
Ah,
Duran,
Duran.
ouais, Duran, Roberto Duran, et
Ouais.
le Hitman Ernst, Thomas Ernst. Et c'était les
Ah,
quatre à
Thomas
l'époque.
Ernst, ouh.
Ouais, les quatre à l'époque, c'était les quatre rois. Et Marvin Hagler, mec, il y a une vidéo qui tourne, je te jure, elle me donne des frissons à chaque fois, où tu le vois, il est dans sa combi, genre jogging, capuche, la serviette autour du cou. Bref, le vrai truc
Ouais.
de boxeur, tu vois. Il a les bandes,
C'est ça.
il a les mains bandées, et il court dans la neige, et il court et il crie le mot war, guerre, tu vois. Mais ce mec-là, une machine de discipline, j'ai jamais vu ça. Mec, cette
À la
vidéo, je l'ai
Rocky.
vue, ah, mais à la Rocky, le vrai truc, tu vois. Haut dans les montagnes, tout seul à courir, et il crie guerre! Ah, mais incroyable. Mais bref, la plupart du temps, c'est pas comme ça. La plupart des temps, t'es dans une chambre d'hôtel, t'as deux coachs avec toi, t'es tranquille, tu mets YouTube ou tu mets Spotify, et tu fais
C'est ça.
ton petit bain d'eau chaude. Bon, après, voilà, c'est pas non plus tout beau, tout rose. Ça reste dangereux,
Non.
ça reste difficile. Mais c'est sûr que t'as pas besoin d'aller dans des extrêmes, tu peux être très aussi méthodique, tu peux contrôler tout ça, tu as une balance, tu as
Exact.
aussi toutes les choses qui sont nécessaires pour le rebond, et aussi tu as des coachs qui sont conscients, tu vois, enfin, tu as des bonnes relations aussi avec tes coachs, bah, tu as des gens qui
Oui, oui,
voient,
oui,
c'est-à-dire que moi j'ai déjà vu des athlètes faire 2-3 bains chauds, et quand on le sortait du bain avec un autre collègue, on s'était dit non, on annule, on le fait pas combattre
oui.
demain,
Ouais.
À ce moment-là, on s'est dit non, c'est bon, c'est trop tard. On vient de dépasser ouais. Ce qui était
la limite.
On vient de dépasser la limite. Là, si on le met, il va mourir. Et donc, on a déjà arrêté des combats comme ça, tu vois. Où tu sors le mec du bain et tu lui dis, ah là, on est désolé. Il y a eu quelque chose qu'on a mal fait, soit dans ta prépa, soit dans ta nutrition. Mais en tout cas, là, ce que ton corps nous donne maintenant comme signal, on peut pas y aller.
Stop.
C'est stop.
Et ça, ouais, ça Khabib, il avait fait ça aussi. Hein. Bah ouais. Il avait annulé son premier combat contre Tony Ferguson à l'UFC parce qu'il avait fait un malaise ouais. Dur à cause du cutting.
Exactement, tu vois. Mais il y avait l'autre aussi, le gars de l'UFC là, qui Cody No Love là, Cody Garbrandt.
Ah, Garbrandt.
Ouais. Et lui, je crois, ouais. Il y avait un moment, lui ou son adversaire, je sais plus quoi, il avait genre 16,5 kilos à perdre, tu vois. Et donc ils le sortent comme ça du bain et le gars aussi, il s'est évanoui. Et donc là, ils ont dit, bah non, en fait, on va pas le faire combattre. Là, on l'a épuisé pour rien. Et donc, c'est fini. Mais tu vois, c'est ça, tout cet aspect-là du cutting, de la perte de poids. Il y a aussi une dose de conscience à apporter. Et comme tu disais, c'est très, très, très mauvais pour la santé et pour la longévité de manière générale. Tu es en train d'utiliser des cycles pour ton cœur, pour tes organes. Ils sont pas censés travailler autant et autant de fois dans l'année. Tu vois, donc pour les gens qui combattent, je sais pas, tous les deux mois et tout, mais c'est vraiment très difficile, tu vois. Donc voilà, mais c'est cool qu'on ait ton point de vue, qu'on ait le point de vue de quelqu'un qui l'ait fait ouais. Beaucoup et que moi, j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet avec toi parce que c'est quelque chose qui revient souvent, la nutrition des combattants, etc., le cutting, la sèche. Parce que comme tu disais, le danger aussi, c'est que sur Instagram, c'est que les gens, ils vont voir des gens qui s'entraînent, mais ils vont voir que la fin. Donc ils vont voir des athlètes, ils vont dire ah j'aimerais bien être combattant pour avoir le physique du combattant. Tu sais maintenant être combattant c'est un truc qui est populaire, c'est fun.
C'est à la mode.
Mais oui c'est à la mode. Alors tant mieux pour nous, tu vois si t'essayes d'en vivre ou t'essayes de le partager. Moi à l'époque où je faisais de la compète et tout c'était pas encore comme ça tu vois. Enfin j'étais tout seul, il y avait pas d'Insta, il y avait pas de Facebook et enfin il y avait mais enfin. C'était pas autant que maintenant. Maintenant,
oui.
Maintenant, même la petite qui fait du yoga, elle va connaître Conor McGregor, tu vois, au moins de nom. Mais à cette époque-là, moi, je disais que je suivais les Thomas Hearns, etc. Et les gens, ils disaient, mec, t'es un malade de faire de la boxe, pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien, tu vois. Alors que là, maintenant, il y a boxing, training, cardio, booty, je sais pas quoi, c'est dans toutes les salles, tu vois. toutes les meufs, elles veulent faire ça.
Rigole pas, j'en ai fait.
Bah, je ne me moque pas.
Body combat, moi, je faisais.
Une bien belle invention.
Eh mais tu rigoles. Mais par contre, du coup, le body combat. Donc moi, c'était plus en mode fitness. Sauf que moi, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire, je suis pas un mec du fitness qui a appris la boxe pour donner du body combat. Je suis un mec de la boxe qui a appris le fitness pour faire du body combat.
Exact.
Et du coup, sur ces cours de body combat, bah les mecs, même les filles, les gars qui venaient, je me rappelle, c'était le lundi. Et le lundi soir, il y avait pas de cours après. Donc ouais. Du coup, à chaque fois, normalement, on le faisait pas. Moi, je faisais des intros et j'essayais d'intégrer de la technique pour vraiment voir des vrais mouvements de boxe. Tu vois, essayer de donner un peu, de partager cette technique boxe aux gens, parce que c'est pas parce que tu fais du fitness que t'as pas le droit de faire de la boxe. C'est pas parce que tu fais de la boxe que t'as pas le droit de faire du fitness. Et j'ai bien aimé ce petit mix des deux mondes sur ces cours de body combat. C'était ça qui était intéressant.
Bah oui. Sympa, hein. Non, après, moi, je m'en moque à chaque fois parce que, tu sais, les gens, ils viennent de cet autre côté-là. Tu vois, comme ils n'ont pas ce background martial, ils vont te dire, bah, je fais du body combat, donc je suis boxeur. Tu vois, bah, en fait, non.
C'est ça.
Séparons les choses, tu vois. Mais après, évidemment, moi, je suis d'accord avec toi. Et moi, de toute façon, c'est ce que je partage aussi le plus souvent. C'est, enfin, pour moi, jusqu'à présent, avec toutes les disciplines que j'ai faites, mais je trouve que le conditionnement physique de l'athlète de sport de combat, pour moi, c'est un des meilleurs, je trouve, tu vois, qui est le plus, on va dire, le plus adapté à la vie peut-être du quotidien, tu vois, ne serait-ce qu'avoir suffisamment de jus pour, je sais pas, me rattraper un bus qui part, sprinter de temps en temps, soulever quelques charges lourdes. Je me dis, tu vois, si tout le monde avait un minimum de conditionnement, moi, je leur ferais faire peut-être le conditionnement d'un athlète de sport de combat, tu vois, il maîtrise un peu tous les systèmes d'énergie, il fait attention aussi à sa nutrition, tu vois, il y a une sorte de, après, ça veut pas dire que c'est le meilleur, etc. Évidemment, c'est pas le meilleur pour l'escalade, c'est pas le meilleur pour la danse. Enfin, je veux dire, le cardio ou le conditionnement physique, c'est contextuel, tu vois, ça dépend de ce que tu vas faire à ton corps. Mais de manière générale, moi, je vois, je sais pas, je me dis quelqu'un qui fait de l'activité physique, on va dire, tranquillement, s'il avait quelques qualités, de conditionnement physique du combattant, il serait assez complet, tu vois, parce que nous, on travaille la force, l'explosivité, le gainage rotationnel, on travaille un peu tout, et surtout la manière dont on le travaille, elle semble être assez bien réglée, enfin, quand c'est bien fait, évidemment, par rapport à d'autres
Oui.
choses où tu dis, en fait, le mec, il va se buter dans un seul attribut, mais ça va pas être très transférable à d'autres choses, tu vois, que ça soit, je sais pas, moi, les autres
Bah,
sports.
c'est dans sa discipline, mais oui, comme tu dis, c'est vrai que dans les sports de combat, par exemple, moi, par rapport à ma préparation physique, je me suis intéressé au triathlon. Donc, parce que bah du coup, je cours, donc les jambes, les impacts, voilà, tu prépares ton corps, même si attention, je suis pas un super coureur de marathon, bref. Le vélo aussi, parce que du coup, à un moment, t'as mal aux jambes. Tu fais du cross-training pour pas, enfin du cross-training, c'est-à-dire que tu fais de l'entraînement croisé pour pas abîmer tes articulations, donc tu mets au vélo pour enlever les impacts. Et après, tu mélanges avec la natation pour apprendre à respirer dans l'effort, c'est un truc de malade. C'est un truc
Magnifique.
de malade. Et pareil, après, renforcement du haut du corps, la natation, l'allongement du muscle. Et il y a aussi un côté méditation aquatique, si je puis dire, quand tu nages, qui est hyper intéressant. Et comme tu dis, un combattant. Et après, je sais pas. Moi, je parle de MMA en général parce que c'est vrai que je suis combattant de MMA et je vois un peu la prépa physique de manière générale. J'ai pas envie de dire ouais, moi, je suis un boxeur, je fais de la boxe.
Ouais.
C'est non, c'est j'ai envie de faire de la boxe, j'ai envie de faire du kick, j'ai envie de faire du muay, j'ai envie de faire du sol, j'ai envie de faire du judo, de la lutte. Et ben la prépa physique, je la vois pareil. Je dis ben l'escalade, c'est top. Parce que l'escalade, tu travailles le grip, la force de préhension. Pour la lutte, c'est nickel. Le triathlon, pour le côté cardio, pour le côté renforcement de tout le corps, et vraiment un cardio, en fait, tu vois large. Parce qu'il y a des mecs qui vont être très bons en vélo, ils vont être très nuls en natation, par exemple.
Ouais.
Ou des choses comme ça. Moi, j'ai vu un cycliste, je roulais avec lui. Donc, comment te dire que j'ai failli mourir deux fois en roulant avec lui? Pas parce que j'ai failli prendre une voiture, mais parce que je crois que mon cœur allait
Ah,
s'arrêter.
putain.
Et c'est le seul mec quand même, on fait une côte. Le mec, il enlève ses mains du vélo, il me pousse dans la côte pour que je pousse pas, tu vois.
Toujours plus.
C'est ça. Je vois mes grosses fesses dans mon cycliste sur mon vélo, et lui,
Ah
bah, il me pousse tranquille. Je n'ai jamais autant aimé qu'un mec me mette une main aux fesses. Je te jure.
fou.
Ah ouais, non, c'est magnifique. Et du coup, même tu vois dans mes coachings, parce que je coach des personnes à côté parce que j'adore cette transmission du savoir et j'adore la pédagogie. Et quand je coach les gens, je fais un test, je les mets à l'échauffement, je prends les pattes d'ours et je fais juste, tu sais, trois petits rounds de 3 minutes de boxe. Et on fait des trucs simples, easy. Du direct, du crochet, de l'uppercut. Vraiment, on prend les bases. Et les gens, à la fin, ils disent, mais c'est trop bien, ça.
Mais
Je dis, ben,
oui,
je dis, mais
c'est
oui.
tellement
Je dis, parce
jouissif.
que, mais c'est ça, t'as compris, t'as compris. Les gens, au jour d'aujourd'hui, alors attention, je parle les gens peut-être pas en général, mais la grosse majorité des gens, ils voient la boxe comme de la violence, déjà. Donc déjà, boum, ils se mettent un blocage. Ouais, la boxe, c'est de la violence. Non. La boxe, c'est un sport, c'est un exutoire, c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et du coup, ils essayent, et là, ils voient que c'est pas de la violence en fait.
Mais
Ils voient aussi, mais oui, ils voient aussi que ils brûlent des calories. C'est tout bête, hein. Mais tu fais de la boxe, et ils se rendent compte qu'en fait, ils sont en nage, ils sont en sueur, et ils
ben
disent, bah en fait, on peut perdre du poids avec ça. Mais oui, la boxe, on peut perdre du poids. Et après, le dernier effet qui se coule, c'est, mais je me sens trop bien.
ben oui, bien
Tu
évidemment.
vois, ils se sentent vidés, pas vidés de leur énergie, bien au contraire, ils ont une énergie nouvelle en eux. Ils se sentent vidés de cette énergie négative,
Exactement.
de cette pollution mentale qu'on a, soit en regardant la télé, soit avec les téléphones, ou juste en parlant des fois à des gens qui font que critiquer les autres,
Ah bah.
ou en ce moment parler du Covid et des gens morts et tout. Non, ils se vident de tout ça, tu vois.
C'est clair. C'est vrai que pour ça, c'est puissant la boxe et même le sport de combat. Et même, je pense, de manière générale, juste frapper, en fait.
Oui.
Je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire et qui est très, très naturel et organique. Tu vois, les gens, ils refusent enfin, les gens. encore une fois, pas d'amalgame, mais de temps en temps, il semble que, moi, en tout cas, ce que je perçois dans certaines conversations, et que je parle oui. De mouvement ou de ce retour un peu à la nature, au côté primal, les gens, ils vont, certaines gens ont tendance à ne voir que le côté, peut-être, retour à la relation avec la nature, dans le sens ouais. que je consomme, ce que j'en tire, et peut-être une connexion, tu vois, spirituelle, etc. Mais sans parler aussi de cet aspect, il y a aussi l'aspect être capable de maintenir, de préserver mon intégrité physique, donc être capable de me défendre et de défendre les miens. Et quand tu as généralement ce type de discours ou ce vocabulaire, les gens, enfin certaines gens, font l'association avec un discours un peu belliqueux ou oui. que je promeus la violence, mais pas du tout. S'il y a un vrai retour à la nature, s'il y a vraie reconnexion à soi, c'est évidemment par le mouvement, par être en nature, donc tu vois, avoir ta dose de vitamine D, tes plantes, etc. Mais il y a aussi l'aspect yes. confrontation. On est censé avoir cet aspect confrontation, soit entre nous, soit avec les autres espèces. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut promouvoir le combat, mais il semblerait qu'avoir une partie de sa pratique physique dédiée à comment contrôler mon corps, comment contrôler mon esprit par l'aspect martial, pour moi, c'est clairement la nature, en fait. C'est clairement ce qu'on est censé faire. Il n'y a pas un seul animal sur Terre qui ne sait pas se défendre, à part nous.
C'est vrai. C'est, ben, tu l'as dit, pour moi, alors je parle, oui, les arts martiaux, parce que pour moi, les arts martiaux, l'homme préhistorique, quand il maniait sa, bon, je l'ai pas vu en direct, hein, je suis un peu trop jeune pour ça, mais quand il maniait sa masse ou qu'il mettait des coups de poing, mais c'est des arts martiaux,
c'est
des arts martiaux, quand il jette une lance ou un truc pour chasser, c'est des arts martiaux. Pour moi, c'est quelque chose, c'est depuis la nuit des temps. Certes, il n'y avait pas d'appellation à l'époque, il y avait, voilà, bien sûr. Mais c'est dans notre code génétique.
Absolument.
C'est dans notre code génétique.
Bouger et se battre, c'est dans notre code génétique. Absolument.
Mais bien sûr. Regarde une bactérie, et je te parle vraiment, tiens, on va parler de virus ou de bactérie. Qu'est-ce que ça fait quand ça va dans un corps humain? Son instinct primaire, c'est je dois survivre dans ce corps humain, tu vois.
Ouais.
Donc au début, bien sûr, voilà, un virus quand il arrive, il tue forcément plein de gens parce que ce virus-là, il sait pas comment faire. Son but à lui, après, ça va être de muter. Là, il va y avoir beaucoup moins de morts à cause de ce virus parce qu'il va dire attends, là je tue mon hôte, moi aussi je meurs, c'est complètement bête. Il fait du coup, je vais apprendre à pas le tuer, mais par contre, je vais apprendre à survivre dedans. C'est dans chaque personne, dans chaque atome, si je puis dire, ou bactérie ou virus, c'est l'instinct de survie. Et l'instinct de survie, comme tu dis, ça commence par l'autoprotection.
C'est clair.
Tu te protèges toi-même.
C'est clair.
On dit pas, bien sûr, faut que t'ailles dans la rue, il y a quelqu'un qui te regarde dans les yeux, tu mets une steak parce que c'est une agression. Ça c'est belliqueux.
Bien sûr.
ça c'est belliqueux. On est d'accord.
Mais tu vois, ne pas être en capacité de se défendre, pour moi aussi, c'est être, comment dire, c'est aussi un des points qui va te rendre très, qui va diminuer
très agressif aussi.
Ouais, déjà très agressif parce que tu vas être constamment oui. dans la peur et dans la crainte et dans la méfiance. C'est ça qui rend
exactement.
Agressif. Mais savoir se défendre, c'est le meilleur moyen d'être en paix et de jamais être agressif justement parce que tu sais ce dont tu es capable. Donc t'as rien à prouver et tu sais que tu peux te débrouiller seul, tu vois. C'est comme t'as pas besoin de le montrer quand t'as vraiment la confiance en toi, tu vois. C'est ça que les gens comprennent pas, c'est que bah ouais, en fait, plus tu sais défendre ton corps, protéger ton corps, moins tu vas vouloir blesser l'autre. Plus tu vas être en paix.
Exact. C'est l'histoire, tu sais, du corneau, du teckel. Il est tout petit, donc son seul moyen de défense, c'est d'aboyer
ouais.
pour faire peur à l'autre.
C'est
Mais quelqu'un qui sait que, bah, du coup, si on l'agresse, il va savoir répondre, ouais. il va savoir contrôler la personne. Attention, on ne parle pas de détruire la personne.
Non, on parle de contrôler.
On parle bien,
la personne.
Par exemple, de contrôler la personne.
Oui. Mais t'as aucun, c'est pour ça que t'as rarement un, enfin, t'entends jamais des athlètes de sport de combat, je sais pas, faire des vagues dans la rue, y a rien à prouver, en fait. Et vu la charge de travail qu'on met déjà sur notre corps, enfin, c'est bon, quoi, t'as rien à prouver. Tu peux te balader avec confiance dans la rue. Et c'est vrai que pour moi, c'est ça aussi, être beaucoup plus proche de la nature et de sa nature. C'est être capable de bouger son corps et de le défendre. Et après, défendre les siens, évidemment, tu vois. Mais tu vois, là, c'est relié un peu à ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que toi, t'avais un peu, t'étais très curieux et que tu faisais aussi du triathlon, même pour le
ouais.
MMA. Donc, t'as cette approche un peu où t'essayes de prendre les choses qui viennent de tous les sports, toutes les disciplines, toutes les pratiques. Et c'est exactement moi, évidemment, ce que je partage, tu vois, cet aspect, l'approche par le mouvement, tu vois. Et toi, justement, cette idée-là ou cette approche-là, cette notion-là, comment t'y es parvenu?
Eh ben écoute, aussi loin que je m'en souvienne, vraiment, comme je t'ai dit, j'ai commencé par le judo. Mais si je m'étais écouté, j'aurais fait du judo, du nunchaku, du karaté.
Ouais.
J'arrive pas à me dire qu'il y a quelque chose qui est pas pour moi.
Ouais.
En fait, par exemple, je vais regarder, tout à l'heure, je te parlais d'escalade. L'escalade, je vois une importance. Je dis, tiens, c'est sympa, tu communies avec la nature, t'escalades une roche, t'escalades un arbre, des trucs comme ça. C'est hyper intéressant. C'est vraiment depuis tout petit où je m'intéresse un peu à tout.
Ouais.
J'ai adoré le roller, j'adore le skate, j'ai adoré le judo, toutes ces choses-là. Pour moi, c'est une façon de m'exprimer. C'est une façon de m'exprimer. Bien sûr, j'adore parler avec les gens, tout ça. Mais j'ai un besoin d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur, de bouger mon corps, de m'exprimer avec les gestes.
Ouais.
C'est tout bête, mais par exemple, tu regardes, tu y a un clip à la télé, je suis avec mes gamins, je vais bouger. Je vais bouger. C'est bien de dire, ouais, je suis content. Bah, montre-le.
Tu es ouais, bah ouais.
Dire, quand t'es un gamin, il réfléchit pas. Mon fils, quand il est content, il saute partout, il fait n'importe quoi. Et moi, c'est un peu ce côté-là. J'ai besoin d'exprimer ma joie, j'ai besoin d'exprimer ma colère ou des fois même ma tristesse. Par exemple, j'ai un moment de triste où on m'a dit quelque chose qui m'a miné le moral. C'est bête, mais des fois tu regardes, tu penses aux gamins qui prennent des bombes sur la gueule en Syrie ou les gamins qui meurent de faim en Afrique, tu vois, c'est quelque chose qui me fait très mal. Et cette façon-là, moi, il y a soit la méditation, donc qui me permet, comment dire, de méditer sur le sujet, d'essayer de me recentrer sur moi-même. Et il y a aussi ce côté, je suis triste, je suis colère, j'ai besoin de le sortir.
Ouais.
Et cette boxe. La boxe, le mouvement, la course, c'est pour moi des moyens d'expression, ouais. De ressortir tout ça, de sortir toute cette énergie négative.
Ok. Et là justement, tu mentionnes encore l'aspect méditation. Tout à l'heure, t'en parlais avec la méditation aquatique là dans la natation.
Ouais, c'est ça.
Toi. À quel point c'est important la méditation pour toi, parce que c'est un sujet qui revient là même dans les autres podcasts, tout le monde mentionne cet outil là mais je veux pas, tu sais, que les gens pensent que tu sais, c'est l'outil tendance, etc. Au final, chacun il vient un peu par les méthodes ou par les biais qui lui sont propres, tu vois, mais c'est vrai qu'il sent qu'il y a une sorte de logique et d'intérêt à justement réfléchir et à avoir cet outil pour observer ses pensées. Et toi, justement, c'était quoi ton parcours un peu avec la méditation et pourquoi maintenant c'est un outil que tu penses être utile?
Eh ben, tu vas rigoler, mais comme je disais, j'étais quelqu'un d'hyperactif. Je suis quelqu'un d'hyperactif. Et je suis tout petit.
Ne mentons pas, je suis quelqu'un d'hyperactif.
c'est quelque chose qui fait partie de moi. Je le suis toujours, mais j'arrive à le contrôler, quoi. J'arrive à le contrôler. Maintenant, c'est plus ma mère qui subit, c'est ma femme qui subit. C'est pas, faut bien quelqu'un qui subisse, quoi.
Exactement.
Des dommages collatéraux. quand mes parents me voient maintenant ou que ma femme qui m'a connu aussi au début, et quand ma femme m'a connu, alors ça fait 12 ans, je pratiquais pas la méditation, j'étais quelqu'un de très angoissé.
Ouais.
Je venais de me blesser au judo, j'avais eu une relation amoureuse un peu difficile, des choses dans la vie qui arrivent à tout le monde. Personne n'aurait jamais pensé, que j'aurais été capable de méditer ou quoi. Il dit, mais c'est pas pour toi, t'es fou. T'es en train de sauter partout. Voilà. Et du coup, ce que j'ai fait simplement, c'est que, à un moment, en vieillissant, en pratiquant la boxe, et surtout en continuant les arts martiaux, j'ai découvert, mais c'est vraiment une découverte, hein. J'ai découvert qu'il n'y avait pas que ce côté physique, mais il y a aussi ce côté, intérieur, le côté l'esprit.
Ouais.
Et je n'y étais jamais intéressé. J'avais dans ma tête, pour moi, c'était des trucs de chaman, des trucs de gourou, des sectes, tu vois.
Ouais.
Pour moi, c'était ça. Mais Et d'ailleurs, c'est complètement débile c'est pas débile, c'est un point de vue. Et c'est quelque chose que maintenant, avec du recul, je dis, mais j'aurais bien aimé commencer bien, bien plus tôt, à pratiquer la méditation, à pratiquer le yoga, ces choses-là. Et je l'ai découvert par la force des choses, je faisais mes crises d'angoisse, tout ça, et j'ai commencé avec la méthode Wim Hof, que j'ai découvert d'abord sur Internet, il n'y avait pas encore d'application, tout ça.
Ouais.
Et il parlait de rétention de respiration, il parlait d'exposition au froid, et il parlait de méditation. J'ai dit, bon, tiens, méditation. Et c'est grâce à Wim Hof là, que j'ai commencé à m'asseoir et essayer juste de me détendre en étant assis.
Ouais.
Et ça, c'est mon premier contact avec la méditation. C'est mon tout premier contact avec la méditation. Et après, j'ai découvert tout ce qui est pranayama, donc travail de respiration, tout ce qui est les mantras aussi, l'utilisation de mantras pour concentrer ton esprit, le fixer sur le moment présent, l'utilisation du mala de méditation. Et après, pareil, tu découvres plein d'autres mondes et tu t'aperçois que la méditation, c'est pas que à partir du yoga, c'est pas que à partir de Wim Hof, mais c'est aussi méditation bouddhique, c'est aussi de la philosophie, pratiquer la méditation. Et du coup, en fait, tout est lié depuis la nuit des temps. Même les mecs qui pratiquaient les arts martiaux, et tous les gens se disent, je me concentre que sur la partie physique. Mais ils oublient 50% de la pratique. C'est-à-dire, ouais, peut-être même plus que ça. Et la partie mentale. Et cette partie mentale, ce travail de méditation, d'introspection, ça m'a permis, non seulement de calmer mes angoisses, de calmer mon hyperactivité, mais également d'être meilleur dans la cage et à l'entraînement et d'être une meilleure personne dans la vie de tous les jours. Et cette découverte, et ben maintenant c'est plus une découverte, maintenant c'est un lifestyle, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi et je m'en détacherai plus jamais. C'est tellement
magnifique,
c'est tellement bien.
Et là justement dans l'aspect performance athlétique et performance dans la cage, en quoi justement avoir cette pratique là complémentaire, ça t'a permis d'améliorer tes performances, et comment toi surtout t'as pu le mesurer en fait, ce gain là de performance?
Bah déjà, tout bête, hein, mais gestion du stress.
Ouais.
Moi, j'ai vu des copains, ils étaient très bons à l'entraînement, c'était des champions. Et quand ils arrivaient, on devait monter sur le ring dans la cage, ils n'arrivaient pas à faire aussi bien que ce qu'ils faisaient à l'entraînement. Pourquoi? Parce que mauvaise gestion du stress. Et pourquoi cette mauvaise gestion du stress? Parce qu'ils n'ont pas appris à communiquer avec leur esprit. C'est-à-dire, ils vont arriver. Et pour eux, bah, y avoir un stress, une angoisse. Et pour eux, c'est pas normal. C'est-à-dire, le corps, il se dit, attends, c'est pas normal qu'il y ait ça. Tout de suite, je me défends. Et c'est quoi le moyen de défense? Bah, je me stresse, je me bloque, j'ai le caca au cul, je vais vomir. Pour eux, c'est pas normal. Et du coup, ça déclenche un mécanisme d'autodéfense.
Ouais.
Alors que non, ça fait partie de toi. Et la méditation, ça permet justement de te connecter avec ton esprit. Donc, c'est-à-dire de te connaître. Tu médites sur des angoisses, tu médites sur du stress, tu fais vraiment connaissance avec ton corps. Et donc, du coup, avant un combat, quand t'as speed d'adrénaline, et je pense que les combattants se reconnaîtront, et même les non-combattants. Parce que, par exemple, quelqu'un de lambda qui pratique pas les sports de combat, avant un entretien d'embauche.
Bien sûr.
La rentrée des classes, c'était pas un stress. Savoir si t'es sap, elles allaient être trop stylées, t'allais être accepté par les copains. Si t'allais avoir le prof qui met des baffes, qui met des coups de dictionnaire sur la tête. Parce que oui, à l'époque, avant Madame Brigitte Macron, les professeurs avaient le droit de te mettre une baffe au cul ou de te mettre un coup de dictionnaire sur la tête. Et oui. Et du coup, cette méditation, elle permet de te connaître toi-même.
Ouais. Donc,
les réactions que tu vas avoir, les crises d'angoisse, les crises de stress, les montées d'adrénaline, tu vas les gérer parce que tu dis, ben, c'est normal, ça fait partie de moi.
Ouais.
Il va y avoir une action, il va y avoir quelque chose qui va se passer, mais cool.
Ouais, c'est clair, c'est
moi-même et ça va y aller.
C'est clair, c'est accepter tout simplement que ça arrive en fait. Voilà, c'est accepter que ce que tu es et ne pas être effrayé au moindre variation dans ton rythme cardiaque, où les gens ils se disent, ah, je suis en train de faire des palpitations, je vais mourir et tout.
Et c'est ça.
Et en fait, c'est les gens, dès que tu les, enfin certaines gens, ceux qui qui n'ont pas ce rapport, comme tu dis, au corps, eh ben, la moindre variation hormonale va les faire paniquer. Et justement, ce sentiment de panique, il va accroître la sensation désagréable de je suis plus en train d'être de contrôler mon corps. Et donc c'est un cercle vicieux. En fait, tu vas de plus en plus être paniqué, ce qui va promouvoir de plus en plus la production de cortisol, le fait que ton corps se rédifie, etc. Et donc ça va de nouveau encore plus produire le sentiment de panique jusqu'à qu'on t'emmène à l'hôpital et que le médecin il te fasse casquer 500 balles alors qu'il va te dire bah t'as rien en fait. C'est que dans votre tête, madame, monsieur, il faut gérer votre stress.
Prends de phytose.
Mais oui, prends un gros Doliprane et prends-toi une piqûre. Mais au final, si t'avais fait le travail en amont de justement d'apprendre à gérer tes émotions. Et d'accepter en fait que des fois quand t'es triste, surtout quand t'es triste, on t'apprend une mauvaise nouvelle, quelque chose d'un peu tragique, c'est normal de sentir que son corps te lâche un peu. Tu sens que ta température elle augmente, tu commences à transpirer pour rien, tu sens des fourmis dans les doigts et t'as l'impression que tu vas t'évanouir et que t'es très faible, etc. Parce que c'est l'influence de tes émotions sur ton corps. Et justement, le but pour moi, en tout cas comment je le vois, la pratique un peu de la méditation ou de se recentrer sur soi, c'est pas d'éviter ces moments de vie-là dramatiques et tragiques, mais c'est d'être au mieux préparé quand ils arrivent. Tu vois, le but, c'est de travailler quand tout va bien. Tu travailles comme, c'est comme l'entraînement et c'est comme la préparation d'un combat. Tu la fais pas quand on t'annonce le combat. Tu la fais toute l'année. Et comme ça, quand on t'annonce le combat, t'as moins de choses à faire, tu vois. Et c'est pareil avec la méditation. Tu la fais pas juste après qu'on t'ait annoncé une mauvaise nouvelle. Non, tu la fais bien avant. Comme ça, quand on t'annonce la mauvaise nouvelle, eh ben, en fait, t'es préparé. T'es beaucoup plus calme. Et tu vas pas t'écrouler, t'effondrer, tu vois. Et moi, l'exemple que je donne un peu, tu vois, même s'il est, il est fort, c'est que moi, je préfère entraîner mon corps, mon cœur et mon esprit pour le moment où on m'appelle et qu'on me dit que ma maman, elle est décédée, tu vois. Et c'est exactement ça. Je veux pas m'effondrer et m'écrouler quand on m'annoncera ça. Et donc, c'est ça, en fait, le travail qui doit être fait en amont, je pense. Et c'est pareil avec le corps. C'est, je vais pas attendre d'avoir de faire un faux mouvement et de me déplacer les vertèbres. Pourquoi je renforcerais pas mon corps maintenant? J'utiliserais pas maintenant au mieux pour être préparé à la vie et à tous les accidents de la vie et tout ce que la vie va nous envoyer au visage, quoi.
On dit toujours, hein. Enfin, c'est vrai que l'adage le dit, vaut mieux prévenir que guérir.
Et c'est clair.
Et ça, c'est pas non seulement parce que tu dois mettre une écharpe parce qu'il fait froid dehors pour pas attraper
c'est
un
clair.
Loup, quoi.
C'est clair.
Comme tu dis, le mouvement, il prépare ton corps. C'est-à-dire, on va vieillir, oui, on va avoir moins de capacité, oui, peut-être qu'on va perdre, de la vue ou de l'audition. Bien sûr, mais le corps, c'est comme ça. Le corps, il est en changement perpétuel. C'est-à-dire, là, dans une heure, je serai le même. Pour moi, je serai le même, mais intérieurement, j'aurais changé.
Exactement.
Parce que peut-être j'aurais pris un peu plus d'eau, parce que j'aurais mangé un truc ou quoi que ce soit. Le corps est en changement perpétuel. Et la vie, c'est pareil. Comme tu dis, hein. Vaut mieux méditer. Bien sûr, ces choses-là, elles arriveront. Bien sûr, à la fin, on a tous la deadline.
C'est, exact.
C'est la mort, elle fait partie de la vie. Alors attention, comme tu dis, c'est pas morbide du tout, ces choses-là, parce que la mort, c'est l'être humain. C'est ce qui caractérise l'être humain. C'est
absolument.
À la fin, on va décéder, et voilà.
C'est parce qu'à la mort qu'on a cette vie-là, tu vois. C'est pas quelque chose qu'il faudrait. Faut pas être effrayé à cette idée-là, tu vois. Ça veut pas dire, tu vois, ne être complètement fou et faire n'importe quoi. Ah, on ne vit qu'une fois. Viens, on va se bourrer la gueule et on va sauter des immeubles. Ben non, c'est pas ce qu'on dit, tu vois. Mais avoir cette conscience et ce rapport à la mortalité du corps, en tout cas de l'avatar, et ben pour moi, c'est quelque chose de plus sain parce que. C'est ça qui va te permettre de profiter de chaque moment de vie, de te rendre compte du caractère précieux de chaque chose que tu peux vivre, tu vois, le moment de jeu avec tes enfants, la petite réussite, le petit moment où tu sais tu te lèves de ta chaise, tu vas parler à cette fille à qui t'as envie de parler, tu vois, tous ces petits moments là, ne serait-ce que même manger ton petit dragon fruit le matin, et ben c'est toutes ces petites choses là, elles ont d'intérêt ou elles sont, tu peux profiter de ces choses là que parce que tu sais que tu vas partir. Tu vois que l'avatar, il va périr. Et c'est ça qui est beau. Et toi, justement, tu parlais de méditation et tu parlais aussi des arts martiaux. Les personnes, moi, qui m'ont permis, en fait, de faire cette connexion entre les deux, peut-être toi aussi, ça va te parler, c'est les samouraïs. Les samouraïs japonais. Samouraïs japonais, moi, ça a été une énorme influence dans ma vie sur le côté, justement, le savoir-vivre. plutôt que la partie martiale, parce que j'ai pas de katana et je fais pas de, je m'en fous, tu vois, je fais pas de kendo, un truc comme ça. et puis les sapes, non, j'ai pas envie. Mais moi, c'est
non, c'est un peu lourd.
C'est un peu lourd, tu vois. bon, il y a eu les tatouages, j'avoue, c'était intéressé par les tatouages aussi.
Ah, les tatouages de Yakuza, tout ça.
Toujours. Mais en priorité, c'était cet aspect. Je me rappelle, j'avais lu le bouquin de Miyamoto Musashi. Je sais pas c'est quoi le titre en français, mais un de ses livres, c'était...
Gorin no Sho.
C'est les cinq cercles, un truc comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle,
Gorin no Sho.
Ouais, les cinq roues, quelque chose comme ça.
Je crois que c'est ça, c'est les cinq roues. Et après, le Gorin no Sho, t'as le Hagakure qui est pas mal aussi.
Ouais, moi j'avais vu le Gorin no Sho et c'était aussi bah voilà, c'était cette révélation de le mec passait son temps à méditer, il passait je crois 2 heures le matin, il méditait sur l'idée de sa propre mort et de l'idée de la mort de ses proches. Et moi en fait quand j'ai lu ça, ça m'a tellement parlé parce que j'ai eu la chance aussi de grandir dans un environnement familial où ma mère m'a toujours dit ça, tu vois. Elle m'a toujours dit vaut mieux que tu le fasses qu'on va tous mourir, tu vois. Mais tu sais, c'était présent en permanence, tu vois, mais pour des trucs aussi simples que, genre, je sais pas, elle me disait fais ça ou pourquoi tu fais pas ça maintenant, et moi je disais non, mais je le ferai demain, et elle me disait direct non, mais ça se trouve demain tu seras mort. Et tu sais, moi j'étais un enfant, tu vois, mais comme c'était, au final c'était trop pas morbide, et je m'en rends compte maintenant de la sagesse et de la puissance d'avoir été, on va dire, conditionné comme ça, c'est que maintenant j'en ai pas du tout peur et que je fais tout ce que j'ai envie de faire dans le sens où dès que j'ai une idée, je la fais, quoi, parce que je me dis bah non, mais demain ça se trouve je meurs, tu vois. Et en fait, c'est tellement libérateur d'avoir ce réflexe-là. Et ouais, moi, j'avais la chance d'avoir ça. Et c'est vrai que cette lecture-là, ce livre-là de Musashi, c'était incroyable parce que le mec médite sur cette idée-là. Et comme tu dis, c'est atteindre un peu cette paix, quoi, cette paix intérieure et de vivre.
Tu l'as dit, la paix intérieure.
Mais oui.
Exactement.
Mais oui.
Exactement. Mais oui, c'est il y en a beaucoup, c'est ils disent tu sais sur le bouddhisme ou les samouraïs, ils disent ouais, mais les mecs c'est des fous, c'est des suicidaires. Et ils font souvent la relation avec tu sais les kamikazes à la guerre et c'est des japonais, Banzai, je me tuais. Et pour eux c'est ça, mais c'est pas du tout ça. Les mecs en fait, ils prônaient une vie simple. C'est-à-dire oui, il y avait les arts martiaux, mais attention, c'était en période de guerre et tout, mais ils disaient pas ouais, moi je vais me tuer, je vais me suicider ou comme ça pour le kiff.
Ouais.
Non, c'était oui, on va tous mourir. Oui, on a la deadline, peut-être je vais mourir demain sur le champ de bataille, peut-être je vais devoir mourir pour accompagner mon seigneur dans la mort, parce c'est pour ça qu'ils faisaient seppuku. Seppuku, ouais. C'est le rituel de sacrifice. Et avant, alors ils l'ont supprimé, je peux plus te dire l'époque, je lis le bouquin là, le Hagakure. Et avant, les serviteurs de leur seigneur, quand le seigneur y mourait, par exemple de guerre ou de maladie, et ben tous les serviteurs faisaient seppuku pour accompagner leur seigneur même dans la mort.
Ouais.
Et donc tu vois, ils avaient pas cette notion. Maintenant tu parles de la mort, forcément t'as lié ça à la tristesse.
Ouais.
Mais en fait t'as lié ça à la tristesse parce que les gens sont morts et toi forcément t'es triste parce que tu vas plus passer le moment avec eux.
Ouais.
Tu vas plus les voir ou des choses comme ça. Ça c'est le côté égoïste qui est en nous. C'est
ouais.
Parce que la personne, elle est morte en fait. C'est, comment dire, quand t'es né, t'as pas peur de naître. Bah non, parce que tu te rends pas compte de ces choses-là, parce que tu nais et voilà, tu t'en rappelles pas.
Exact.
Et bah la mort, c'est pareil. Quand t'es mort, tu vas pas t'en rappeler, t'es mort.
Exact.
Tu rencontres jamais la mort. Dans la vie, quand tu vis, bah t'es en vie. Et quand t'es mort, bah t'es mort, donc tu rencontres jamais la mort.
Ouais.
Donc en fait, on stigmatise la mort, on l'imagine, on lui fait même des images de la mort, la faucheuse, tout ça.
Ouais.
Et on a ce côté vraiment, je suis triste, mais non. C'est quand les autres meurent, tu es triste parce que tu vas plus les voir. Et ça, c'est égoïste, mais c'est normal. C'est du bon égoïsme, on va dire.
Ouais, bah.
Mais par contre, toi, quand tu vas mourir, tu le sauras pas. Tu le sauras pas.
C'est clair.
C'est-à-dire ton corps, oui, sera mort. Peut-être ton esprit, ton âme, voilà, ils vont subsister, ils vont persister. Et selon les croyances de chacun, tu vas peut-être te réincarner. Il y a peut-être un autre monde.
Exact.
Il y a plein de choses comme ça. On ne sait pas. Mais en tout cas. La mort, faut pas la craindre, parce que quand t'es mort, bah t'es mort. Mais par contre, la vie, faut en profiter, parce que là, t'es en vie, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est pas demain.
Mais oui. Et moi, je dirais même, tu vois, faut pas craindre la mort, mais il faut craindre de ne pas vivre, tu vois. Et c'est ça.
Et voilà, mais ça, c'est la vraie mort, je pense.
Mais oui, et c'est ça, mais exactement. Moi, parce que quand t'es en vie, et que tu ne vis pas parce que tu n'en profites pas et parce que tu n'es pas qui t'as envie d'être, etc. Et ben en fait, c'est bien pire que la mort physique, c'est la mort de l'âme, c'est la mort de l'esprit. Et moi, je préfère. Je suis en mode, je m'en fous en fait de la mort physique, tu vois. Je m'en fous que mon corps il parte, c'est pas important. Mais je veux pas que mon âme meure, tu vois. Et je veux que mon âme, elle s'élève. Je veux profiter de ces années, de cette expérience physique terrestre pour élever mon âme, tu vois. Et qu'après, dans le prochain cycle, eh ben au moins j'aurai fait ma part, tu vois. Mais là, les gens, comme tu dis en fait, sont tellement attachés, comme il y a plus cette connexion en fait avec ton cœur, ton esprit. Ni même la nature, ni la grandiosité, je sais pas comment dire, la magnificence, l'immensité du cosmos, et ben en fait on est attaché, ce qu'on est attaché, on est attaché à l'idée de la mort physique en fait, on est attaché à notre avatar, on est attaché à ce
On
corps,
s'arrête là.
on s'arrête
C'est
là,
ça.
on s'arrête à tout ce qui est physique et matériel, tu vois.
Exact.
Alors qu'au final, plus tu t'es détaché de ça, et plus tu te rends compte de l'abondance, de l'infinité de possibilités, de l'infinité de ce que tu peux faire, de ce que tu peux être, et à quel point tu peux élever ton âme, élever ton esprit, apprendre, enseigner, partager, ressentir, voir, découvrir. Tu vois, tout ça, c'est un vocabulaire qui est associé à la mort physique, tu vois. Il n'est pas
Ouais.
associé à... Tu vois, c'est associé à... Si tu lâches ce truc-là, eh ben, tu as
Ouais.
accès à tout ça, tu vois. Et c'est ça qui est beau, tu vois. C'est que cette vie-là, malgré les... Enfin, peu importe les croyances de chacun, mais la personne qui n'a pas cette conscience-là, et ben pour moi, en fait, elle vit pas. C'est un mort vivant, en fait. C'est tout.
C'est ça, elle est comme dans Matrix,
Mais oui.
en fait, t'es esclave de cette
De la machine.
De cette réalité sensible, et parce que c'est, je sais plus si il disait ça, je crois que c'est Platon, il parlait de la, nous on vit dans la réalité sensible, et en fait il y a la réalité intelligible, et cette réalité intelligible c'est la vraie, celle qui est en nous, et la vérité sens la comment dire, la vie sensible, c'est où on est maintenant, en fait on n'est pas dans la vraie vie, et quand tu meurs tu reviens à cette vie intelligible qui existe vraiment, ces choses-là. Tu vois,
Absolument.
c'est ça. Ça, c'est hyper profond. Et ça, en sujet de méditation, tu commences à méditer là-dessus, mais il faut partir en retraite 2 jours dans la forêt, hein, parce que
Absolument.
je te jure que c'est trop profond. Tu pars loin. Moi, des fois,
Ben
ça doit être comme toi, ou même j'écoutais les différents podcasts, enfin, tous les différents podcasts, et comment dire, c'est vrai que la méditation, bah, quand tu pars, tu arrives vraiment à te connecter avec toi-même, te concentrer sur le
Exact.
moment présent et laisser ton esprit, comment dire, à communiquer avec ton avatar, et tu sens cette connexion.
Exact.
En fait, tu vas très très loin, tu vas très très loin,
Oui, mais
et
c'est
tu
ça qui est
reviens ce qui
beau.
est calme.
Exactement, et c'est ça qui est beau. Moi, j'ai du mal, tu vois. Bah évidemment, déjà, j'en attire pas vraiment dans ma vie, tu vois, des gens qui sont pas éveillés à ces sujets-là. Mais je me dis, tu vois, avec toute l'humilité que je pourrais avoir, qu'une vie sans ça, c'est une vie qui n'est pas vécue. Tu vois, une vie sans ce
Eh oui.
côté, cette conscience qu'on est plus que cet avatar-là, et qu'il y a plus loin, et qu'il y a plus, et ben en fait, c'est risible, en fait. C'est vraiment ridicule, quoi. C'est comme si, en fait... Attends, il y avait un proverbe. C'est un proverbe japonais. Putain, je sais plus le dire en japonais. Mais le proverbe, c'était... Ah putain, bon, je l'aurais pas, je l'aurais pas. Mais en gros, le proverbe, il dit... une grenouille... Faut visualiser. Voilà, je vais partir dans un délire. Putain.
Vas-y, vas-y, pars dans le délire. On est là
Attends.
pour ça, c'est ça
Là,
qui est bon.
je vais m'abandonner dans ce délire-là. Bon, je vais pas retrouver le proverbe. Mais en gros, l'idée, c'est quoi? C'est genre, c'est une grenouille dans un puits, au fond d'un puits, ne saura jamais l'étendue en fait de son pouvoir que quand elle sortira du puits et qu'elle ira dans l'océan, tu vois. Et donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire
Yes.
que ton environnement, si tu le lâches pas, si tu lâches pas cet environnement dans lequel tu as été créé, qui pour nous est cet environnement physique, tu vois, cette intelligence sensible, si tu la lâches pas, c'est impossible pour toi d'atteindre cette transcendance, en fait, d'étendre,
Ouais,
de
c'est ce
vraiment
qu'ils appellent
prendre plus.
l'illumination en yoga, tout
Ouais,
ça.
voilà, divination, enlightenment, peu importe, tu vois. Et
Ouais,
tu vois,
ouais.
quand on dit ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus simples qu'il n'y paraît, tu vois. Ça veut pas dire que tu vas tout lâcher, quitter ta femme, tes 3 enfants, ton boulot, à 60 ans, tu deviens moine tibétain et t'arrives à flotter. Non, c'est pas ce qu'on dit, tu vois. Tu peux très, très facilement avoir ces consciences-là et vivre dans le monde physique et t'adapter. Sauf que la différence, ça va être la manière dont tu vas percevoir les choses. Tu vas être largement plus en paix et en accord avec toi-même. C'est ça le résultat de tout ça. C'est pas de faire un changement de vie, de tout casser et de vivre avec un pagne et manger des graines. C'est pas ça qu'on dit. Mais en combinant les choses et en acceptant le fait que tu es multidimensionnel, eh ben, tu vas pouvoir vivre dans ton monde physique avec les gens, interagir avec les gens totalement normalement, même faire le même job, il n'y a aucun souci. Sauf que la manière au quotidien, dans toutes les petites actions, toutes les petites perceptions que tu vas avoir, que quelqu'un te donne une question, que te pose une question, toutes ces micro-interactions, tu vas le voir qu'elles vont être bien meilleur, parce que ta perception, elle va être beaucoup plus saine, beaucoup plus en paix, beaucoup plus calme. Tu vas avoir moins tendance à t'énerver, tu vas être beaucoup plus à l'écoute, tu vas être beaucoup plus patient. C'est ça, là, le résultat de ce travail-là. C'est pas partir en transcendance et de plus être physique et d'être que de la lumière. C'est pas ce qu'on te dit du tout. C'est simplement que dans les embouteillages, tu vas pas péter un câble. Quand ton enfant va pas faire ça, pas péter un câble. C'est ça qu'on dit. Tu vas pas avoir des ulcères à 40 ans et tu vas pas avoir toutes les maladies dégénératrices à 50 ans.
À cause du stress.
Exactement. Ouais. C'est ça qu'on te dit, nous, tu vois. Et c'est ça qui est difficile, des fois, pour les gens de comprendre, c'est qu'ils opposent les deux. C'est comme tu dis, bah voilà, moi je mange pas de viande et je mange de la viande. T'as le mec qui mange de la viande, il est dans la société. Le mec qui mange pas de viande, c'est un hippie dans un arbre. Mais non, en fait.
Exactement.
Il y a tout un monde entre les deux, les copains.
Et puis peut-être que le mec qui mange de la viande, il a juste décidé de manger de la viande et l'autre il aime pas ça. Et,
ouais, il fait ce qu'il veut, quoi. Je veux dire, ça se trouve, il est allergique à un truc, t'en sais rien, il fait ce qu'il veut, le mec, tu vois.
Moi j'adore le fromage. Et il y a mon pote qui a
intolérant
au lactose, c'est pas pour ça que je
l'attends
à la maison.
C'est clair.
Tu vois le délire, je vais pas lui dire, bah si, tu manges de fromage, moi j'en mange, tu dois manger.
C'est clair.
Je suis intolérant au lactose, mais je m'en fous.
Mais c'est exactement ça.
Ah, vas-y, mange, je fais une allergie, meurs à cause de ça, et puis voilà.
C'est clair, ça n'a aucun sens, tu vois.
C'est fou. Ouais. C'est fou, mais tu sais, c'est comme l'histoire, je vais pas débattre là-dessus, on va pas débattre là-dessus, mais. C'est comme parle de religion.
Ouais.
Alors tu peux être un musulman, tu peux être un chrétien, tu peux être un juif. En fait, on parle tous de la même entité, mais avec des noms différents.
Exact.
Quand tu regardes, moi, j'ai vu ça en lisant des choses sur le yoga. Et en fait, ils disent le yoga, c'est pas religieux parce que. C'est-à-dire, on croit bien sûr à une entité supérieure ou à l'esprit, ces choses-là. Mais en fait, on ne donne pas de nom. Et quand je regarde les autres religions, c'est la même chose. On parle tous de la même chose, de la même entité. Et quand il y a une phrase qui dit « on est tous frères », et ben c'est vrai. En fait, on a tous les mêmes croyances, ceux qui croient à la religion, tout ça. On a tous les mêmes croyances, on a tous les mêmes dieux, quoi. On a juste une façon différente de le dire. Mais en fait, tout est lié.
C'est clair. Mais tu vois, même avec le sujet de la religion, tu vois, ce que beaucoup ont du mal peut-être à comprendre, tu vois, moi je m'en suis totalement, libéré, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est comme ce que tu viens de dire, en fait. Plus tu t'éduques et plus tu es libéré de tous ces faux débats, en fait, de toutes ces fausses tensions qu'on nous impose et qui nous divisent les uns les autres, tous ces faux débats, surtout en France, tu vois. En France, on est le pays du débat, tu vois. Et vraiment,
ouais, c'est vrai, ça.
Moi, dès que je suis parti de la France, j'ai compris qu'en fait, on avait des débats de merguez, tu vois, que ça sert à que dalle. Non, mais vraiment, c'est péter dans de la, enfin, c'est pisser dans un violon, tu vois. C'est exactement ça, c'est pisser dans un violon. Ça sert à absolument que dalle, parce que on est le pays qui débat le plus et qui prétend avoir cette haute connaissance et cet héritage des Lumières, etc. Et en même temps, on est le pays qui consomme le plus d'antidépresseurs et le plus triste. Voilà. Donc, je veux dire, si ça, c'est le futur, ben, alors, arrêtons le débat parce que ça sert à rien, ça nous mène nulle part, tu vois. Mais ouais, moi, ça a été, c'est exactement ça. Moi, ça a été, tu vois, avec les voyages, etc. Tu vois, ça m'a désensibilisé de cette idée de débattre, en fait. Débattre, ça sert à rien. Et surtout, en fait, s'éduquer. Les lectures, les connaissances, les pratiques aussi, elles te permettent, en fait, d'atteindre beaucoup plus, de te rapprocher en tout cas de la vérité avec un grand V quand tu étudies tous les points de vue, quand tu apprends et t'essayes de faire preuve d'empathie sur l'autre personne, comment elle peut penser ou comment elle peut percevoir, tu vois. Et au sujet de la religion, c'est pareil, tu vois. Là où tu nais dans un dogme et que tu dis vas-y, si j'en sors, bah je vais être foudroyé par ma famille, et en fait, à mesure que tu t'éduques et que t'en apprends un peu plus déjà sur le tien et aussi sur celui des autres, tu te rends compte qu'il y a plein de choses que tu faisais qui étaient beaucoup plus néfastes chez les autres, que ce que toi tu subissais, tu vois, avec tu vois que ça soit la ségrégation, ne pas parler à telle ou telle personne, ne pas te marier avec telle ou telle personne à cause de ça, ça, ça. Enfin, tout ça, c'est vraiment sortir de ce qui est censé être comment dire, une pratique, pas une pratique, mais un organisme comme la religion. Tu vois, la religion, si tu regardes même l'étymologie, tu vois, ça veut dire c'est ce qui nous lie, c'est ce qui nous relie, tu vois. Et donc c'est simplement une sorte de collectif de pensée, tu vois. C'est tout ce que c'est. T'as pas besoin de segmenter, de mettre des mots et après de pas accepter d'autres gens. Si le but de tout ça c'est de te rendre compte qu'on est tous un et que toi tu veux avoir un organisme et un mot qui veut dire ben relions-nous. Et ben alors pourquoi justement tu mets des gens en dehors de ça, tu vois. Et c'est
pourquoi
ça qui
tu les sépares.
Pourquoi tu les sépares, tu vois. Et c'est ça dans tous les débats et dans tous les sujets. Si tu te rends compte qu'il y a des choses qui nous séparent, c'est que c'est la mauvaise direction, tu vois. Que ça soit ton alimentation, ta appartenance à une religion, l'endroit géographique, ton salaire, ton métier, la ville par rapport à la campagne. Tout ça, c'est des choses qui nous séparent. Donc, elles n'ont pas lieu d'être, tu vois. Dans la nature, ça n'existe pas, ces choses-là. Donc,
les animaux ne se prennent pas la tête.
C'est clair. Donc, essayons de nous rapprocher de quelque chose qui nous unit et qui nous lie, tu vois. Et voilà, ça peut être, tu vois, moi, j'ai jamais été plus proche des gens qui ont partagé les mêmes sports, par exemple, que moi, que des gens qui ont partagé les mêmes villes que moi, tu vois, ou les mêmes études que moi, tu vois. Moi, j'étais toujours plus proche des gens qui vivaient ce que je vivais. Et c'est ça qui est beau, tu vois, c'est que dans ces moments-là, quand t'essaies de te transcender, de te dépasser, et que tu te rends compte qu'il y a des gens aussi qui sont dans les mêmes univers, c'est là où les amitiés les fraternités se créent, se forgent. Et ouais, ces grosses connexions se font, tu vois. Et c'est ça pour les gens qui n'ont pas accès à ça de par leur style de vie. Tu vois, moi je pense aux gens par exemple qui sont très seuls, qui ont un métier très stressant, etc. Évidemment, eux, ça va être plus difficile pour eux, tu vois, ou les introvertis, etc. Mais c'est justement, moi ce que je veux dire, c'est que c'est pas impossible et c'est pas dans la division, dans le débat, dans chercher qui a à avoir raison que tu vas trouver cette unité, tu vois. Et c'est dans tout ce qui est opposé. C'est dans bah viens on va en nature, viens on joue. C'est dans le partage de la nourriture, c'est dans la découverte de l'autre, c'est dans les voyages, c'est dans tout ce qui te relie en fait, tout ce qui te connecte et qui est totalement indépendant de label en fait.
De toute façon, on est tout, tu l'as dit toi-même, hein, c'est vrai qu'on est tous connectés les uns aux autres. Oui. On est tous connectés les uns aux autres. Bien sûr qu'on ne le voit pas, c'est pas des liens, on n'a pas une corde qui nous lie les uns aux autres, mais d'une manière ou d'une autre, on est tous connectés. Donc même moi, il y a quelqu'un qui va être à 10 000 km de là, et ben, je suis connecté avec cette personne-là.
C'est clair.
Bien sûr, quand on va se rencontrer, c'est est-ce que ça match, est-ce que ça match pas. Mais si ça match pas, et ben, c'est pas grave, je vais pas être son pote, mais ça n'empêche qu'on reste connecté.
Exactement.
C'est pas quelqu'un ouais, il a un problème dans la rue, bah, ça va matcher, non, je le laisse dans la merde. Mais non, c'est quelqu'un qui est connecté avec moi-même. Donc, s'il est dans la merde, je me dois de l'aider comme si je m'aidais moi-même.
Absolument. Absolument.
Moi, je pars de ce principe-là. Il y a quelqu'un, je sais pas, tout con, il a fait quelque chose de mal. Oui, il a fait quelque chose de mal, je suis d'accord. Bon, après, c'est vrai que j'ai un peu du mal avec les personnes, c'est les assassins, les choses comme
bien
ça.
Bien sûr, bien sûr.
Je ne comprendrai jamais, tu vois. Je ne comprends, j'arrive pas à comprendre, je sais pas. Tu vois, on parle du, c'est tout bête, on dit on est tous connectés, c'est pas un monde de bisounours, on le sait très bien.
Bien sûr.
Mais ça n'empêche que même s'il y a des assassins et des choses comme ça, ça va pas m'empêcher moi de faire confiance à la personne, de perdre cette confiance en l'humanité.
Absolument, absolument, jamais, tu vois. Et c'est ça le truc, c'est que plus t'avances et plus justement t'essaies de découvrir de plus en plus ce que ça signifie justement d'être connecté à la nature, d'être connecté les uns aux autres et d'être un.
Ouais.
Et plus justement tu te sépares même de cette idée, ah bah si lui il a fait ça, eh ben je lui parle pas. Ou si lui c'est un criminel, je lui parle pas. Alors évidemment si tu penses, ah bah lui c'est un violeur d'enfants, je vais pas être son pote. Faut pas le voir en fait. En tout cas moi c'est ce que j'essaie de faire, c'est j'essaie pas de le voir dans ce qu'on... Enfin, en termes de faire un zoom aussi petit et aussi précis, bien au contraire, j'essaie justement d'aller plus loin. C'est-à-dire que lui, si ça trouve dans son expérience de vie, dans son cycle de vie et dans cette phase-là dans laquelle il est dans sa vie, ou peut-être, je sais pas moi, bon là on part en spiritualité, peut-être les contrats karmiques qu'il a par le passé ou j'en sais rien, tu vois, toutes les anciennes vies l'ont mené à dans son expérience de vie sur Terre actuelle de vivre ça, tu vois. Et moi, comme je suis témoin de ça, ça va m'amener à le juger. Mais justement, si moi je suis dans cet amour et dans cette connexion à un tout et de comprendre que, comme pour tout ce qu'il y a dans la nature, la vie elle est cyclique et elle est infinie, eh ben, j'ai pas envie de m'arrêter à ce moment de vie. C'est comme si, en fait, tu zoomais et tu prenais une photo d'un moment précis de la vie de quelqu'un,
et que
tu le jugeais là-dessus. Tu vois, et c'est ça qui est dommage. Tu vois, c'est comme si tu prenais ton enfant, le gars il casse un verre, et toi tu retiens que cette image de lui casser un verre, tu dis, ah bah lui c'est un mauvais enfant. Mais si tu dézoomes et tu regardes sur les 90 années ou 80 années de sa vie, eh ben, ce moment-là de vie, il vaut rien. Et donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est je me dis, voilà, même un gars qui est un violeur ou un truc comme ça, et j'en sais rien, tu vois. Ce mec-là, même toute sa vie, ses 80 années de vie, si tu la mets en perspective de toutes ses vies antérieures et toutes ses vies futures, et tu dis, bah en fait, là, c'est un moment de toute la vie, en fait, de cette âme-là. Et ça se trouve, c'est rien, tu vois. Et ça se trouve, c'est... Alors évidemment, ça c'est chacun sa vision des choses, tu vois. Mais moi, ça, en tout cas, c'est pas ce qu'on dit. C'est parce que voilà, c'est ça. Il y a une différence entre avoir une opinion sur quelque chose et observer les choses et cautionner, tu vois. On n'a pas dit qu'on cautionnait, on n'a pas dit qu'on pardonnait spécialement. C'est même pas mon taf de faire ça. C'est pas à moi. Moi, je suis personne, tu vois. Mais
je pareil.
C'est clair. Mais je trouve quand même que c'est beaucoup plus sain de voir les choses comme ça et d'avoir toujours dans ta poche une clé en main qui est le pardon, qui est la gratitude et qui est le passons à autre chose et essayons d'élever le collectif plutôt que pointer du doigt, stigmatiser, segmenter, diviser, tu vois. En tout cas, voilà, si dans un peu la grande perspective des choses, j'essaye plutôt de me rapprocher d'une vision comme ça, tu vois, que je vais le suivre au poil de cul de belette, tu vois. Je vais voir tout ce qu'il fait et ah, c'est bon, c'est pas bon, tu vois. Ah, c'est pas à nous de faire ça, tu vois.
L'inspecteur des travaux finis, quoi.
Exactement, c'est exactement ça.
Ah non.
Mais justement.
C'est vrai que là-dessus, toute cette noirceur qu'il peut y avoir dans ce monde, moi je préfère offrir l'énergie d'un sourire plutôt que offrir la noirceur du dramatique.
Amen. Amen.
Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, quand j'avais découvert cette citation. J'ai dit, mais il a raison. C'est vrai que dans le monde, il se passe plein de merde. C'est indéniable. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se laisser bouffer par ça et offrir aux gens cette noirceur.
Absolument.
Alors oui, il y a de la noirceur, mais les gens, ils sont peut-être plus attachés, ils sont peut-être plus atteints que toi. Ils sont peut-être en déprime ou quoi que ce soit.
Exact.
Alors plutôt que d'en faire cette noirceur du drame, eh ben, offre-leur un sourire, ça te coûte rien, juste d'ouvrir ta bouche et montrer tes chicots. Tu vois ce que je veux dire?
Je sens que ça va être le titre du podcast. Ouvre ta bouche et montre tes chicots.
C'est tellement simple, tu vois ce que je veux dire? Ouvre ta bouche, montre tes chicots. Tu vois? Et là, tu peux sauver une vie avec ça.
Exactement.
Montre tes chicots.
Amen.
Amen. Et on parle pas d'aller chez le dentiste. Hein.
Ah mon David, tu me régales. Tu me régales, tu me régales. Bah écoute mon David, moi j'aime bien terminer ces entrevues avec toujours trois questions que je pose à tous les invités. Comme ça, comme à chaque fois, pour donner aux gens, tu as des outils un peu plus pratiques qui peuvent incorporer dans leur quotidien, des choses qu'ils peuvent aller soit rechercher, soit lire, soit des sujets sur lesquels ils peuvent méditer. Et donc je vais te poser ces trois questions. Est-ce que tu es prêt?
Ah oui,
alors, la première question, c'est si tu avais un seul livre à offrir, quel serait ce livre et pourquoi?
Ok. Bah, c'est vrai qu'il y en a pas mal, il y en a pas mal. Après, je réfléchis. Hein. Je suis toujours là, mais je réfléchis. Ça peut être un long processus.
On a tout le temps.
Non, j'aime bien. J'ai
après,
tu... le rôle de mon enfance, ça m'a vraiment aidé.
Non, mais après, tu vois, si tu peux en penser à plusieurs, hein, si jamais. Mais l'idée, ouais, c'est de dire, voilà, un livre à offrir, lequel ça serait et pourquoi. Et ça peut être justement un livre auquel tu penses maintenant, tu vois, dans les 5-6 derniers mois. Et comme ça, peut-être, si on se revoit, tu vois, dans un ou deux ans, tu pourras offrir d'autres livres, conseiller d'autres choses, tu vois. Ça peut être de ce point de vue-là que tu peux voir les choses. Donc, sois pas limité, quoi. Vas-y, dis ce que
j'ai bien aimé. C'est Zen et ça. Alors je sais pas si tu connais, c'est Shunyo. Attends, je crois que je l'ai juste à côté. Il est pas loin, il est juste à côté de moi. Et ce bouquin, c'est pas vraiment une histoire ou quoi que ce soit. C'est vraiment un bouquin qui est mis sous forme pratique. Et en fait, c'est un gars qui fait des jardins zen. Et en même temps, il est moine. Et ce gars-là, en fait, Voilà, c'est bon, je l'ai. C'est Shunyo Masuno. Donc, okay. Shunyo Masuno. Et c'est Zen, l'art d'une vie simple. Et ce mec-là, en fait, il partage plein de petites citations, d'expériences de vie, des petites histoires, et qui te permettent, en fait, d'enlever le superflu de ta vie, et de te concentrer sur les choses simples de la vie. Okay. Et ce bouquin-là, je l'ai lu, enfin, je l'ai bouffé d'ailleurs, il était assez rapidement, et là, je suis en train de le relire, il est toujours à côté de moi, je l'emmène aussi. Et tu vois, par exemple, c'est tout bête, là, je prends principe 36, assumer la responsabilité de votre travail. Cette manière de faire procure opportunité et bonne fortune. Et t'as tout un petit descriptif et une histoire là-dessus. Respirer lentement. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé, alors attends, je l'ai juste là. Comme j'ai le bouquin sur moi, j'en profite. Donc du coup, la première citation, et là déjà, ça te met sur le cul, c'est « Consacrer du temps au vide. Commencez par vous observer. »
Wow.
Et du coup, après derrière, il y a le descriptif. « Soyez avec vous-même tel que vous êtes dans la vie, mais sans hâte, sans impatience. » En fait, le mec, il te dit, la plupart des gens, ils disent quoi ?« Ouais, mais la méditation, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça. » Ben, frérot, réveille-toi 10 minutes avant.
Ben oui, c'est clair.
Tu t'assois. Et tu médites 5 minutes. On ne te dit pas de rester une heure à méditer, mais médite 5 minutes. Pose-toi, respire, apprécie un peu l'extérieur. Bon, là, c'est vrai qu'il fait assez moche, mais bon, c'est pas grave. Et enfin, par chez moi, en tout cas. Mais je veux dire, lève-toi 10 minutes avant, prends ce temps-là pour toi. Et justement, arrête de dire que t'es tout le temps dans le rush. Parce que, comme tu dis, tu vas avoir des ulcères, tu vas nous faire une crise cardiaque parce que tu as l'impression de tout le temps être dans le rush. Et ce bouquin-là, il donne plein de petites astuces de vie comme ça. Et c'est hyper intéressant. Donc, c'est Zen, l'art d'une vie simple de Shunyo Masuno.
Ok, magnifique. Deuxième question. Si tu devais laisser un message sur Terre avant ton départ, quel serait ce message? Ça peut être une citation, un mot, une phrase, mais en un message, tu vois. C'est parfait. Attends, d'ailleurs pour le sujet là qu'on vient de terminer sur le départ de ton avatar physique. Donc je te laisse répondre.
Eh ben écoute, tu vois, c'est comme je viens de te dire, c'est offrez l'énergie de votre sourire et n'offrez pas la noirceur du drame.
Magnifique. Et ça, tu sais de qui c'est ou tu te rappelles?
Comment?
De qui c'est ça?
Eh ben, tu vas te marrer. C'est un bouquin que j'ai lu aussi et c'est de Michel Simès.
Ok. Je m'attendais pas à ça.
C'est pas ouf.
C'est trop bon.
Et en fait, c'est vrai que le bouquin, je l'ai à la maison aussi. Et en fait, lui, il dit l'art d'une vie simple. Et il dit oui, on va parler de sujets très importants. Là, c'est en relation avec la nutrition. Et il fait bon bah moi je vais vous bien sûr avec mon style un peu je vais vous donner de l'humour, mais ça n'empêche que c'est pas parce que je vous offre mon sourire et de l'humour que ce que je vais vous partager c'est futile.
Exactement.
Et c'est comme ça que je vois la vie. On peut parler de choses graves. Quand je parle de graves, c'est de choses importantes.
Ouais.
Avec le sourire.
Exactement, et avec légèreté.
Vas-y, je t'écoute.
Non, je te disais oui, avec le sourire et avec légèreté. Simplement.
Exactement. Et c'est comme ça que je vois la vie. Oui, il y a des choses. Oui, des fois c'est dur. Oui, mais souris, mec. Prends l'énergie de ce sourire, cette énergie solaire. Partage-la aux autres. Offre pas la noirceur, ça sert à rien. Il y a déjà assez de noirceur dans le monde comme ça.
C'est clair. Tiens, dernière question pour finir. Est-ce que tu pourrais nous décrire ta routine matinale parfaite?
Yes. Ah, bah, je l'ai, le magical morning.
Vas-y, dis-nous tout.
Donc du coup, alors après, moi, ouais, j'en ai un ou deux parce que ça diffère selon si je dois emmener les enfants à l'école ou pas. Mais je me lève assez tôt, 5h45 du matin, 6h si j'ai du mal à décoller. Je me fais mon café. Après, en laissant le café un peu refroidir, salutations au soleil et travail de shaking. En fait, c'est juste t'es sur les pieds et tu laisses ton corps tu laisses ton corps tout détendu, tu shakes. Je trouve que ça fait des petits picotis dans les doigts, ça te, ça t'active un petit peu. La salutation au soleil juste après pour ouvrir le souffle, ouvrir le corps et vraiment commencer à créer de l'amplitude et cette connexion avec le corps. Et j'adore finir ma routine avec, je bois mon café tranquille, tu sais, des petites gorgées, et je fais ma mobilité, la routine mobilité de mon gourou, de mon maestré. Slim, non pas slim movement. Et du coup, mais tu rigoles, mais c'est vrai. Tous les matins, j'ai mon petit café, les petites gorgées. Tu
vois, je fais la même en plus.
Jefferson curl et tout.
Pareil. Je me mets un petit thé, petite Jefferson curl, petite rotation du thorax, petit squat.
Exact.
Je me mets bien.
C'est ça. Et magnifique. Après, j'aime bien. Donc là, quand les enfants commencent à se réveiller, que je les ai posés dans le canapé et qu'ils ont leur petit déjeuner, je vais faire exposition froide, donc douche froide et respiration Wim Hof.
Trop bon. Plein d'outils là pour les gens qui justement se demandent comment, par où, par quoi commencer. Là, c'est top parce que tu partages plein d'outils. En plus, qui sont largement actionnables, que tu peux trouver facilement. Il y a plein de contenus aussi gratuits. Donc c'est.
T'as des applications maintenant. T'as l'application Wim Hof sur l'App Store, sur Android.
Bah ouais.
Et moi je l'ai découvert, c'était que sur YouTube avec des vidéos à l'arrache ou des lectures que j'ai cherchées. Et là l'application elle est hyper bien faite.
Elle est trop bien.
Sous forme de challenge en plus.
Grave.
C'est hyper intéressant franchement.
Même pour la méditation, il y a plein de trucs avec lesquels tu peux commencer, genre Headspace. Ou l'application de Samaris aussi qui est bien, des trucs super simples où ils te donnent, tu vois, des petites méditations guidées, 5 à 10 minutes. Et après, si t'es pas trop un fainéant, tu vas sur YouTube, tu tapes méditation guidée et il y en a aussi, tu vois. Donc,
au bout d'un moment, faut
commencer, quoi.
Bah, j'ai jamais, pour la méditation, j'ai jamais utilisé, par exemple, Petit Bambou, ces choses-là.
Ouais,
en fait, c'est pareil, il y a le livre Breezology de Zvig Averal. Alors, c'est Stig Averal Severinsson, c'est un mec qui a des champions, des records du monde d'apnée, tout ça.
Énorme.
Et donc c'est Breezology, ce bouquin.
Ouais.
Et il donne plein d'outils de méditation.
Trop bien.
Donc forcément, pas forcément en mettant les écouteurs, mais par exemple en allant dehors et tu te poses, s'il fait bon bien sûr, tu te poses et tu fermes les yeux. Et pour te concentrer sur le moment présent, t'écoutes les bruits qu'il y a autour de toi. Et par exemple, si t'entends des gens parler. En fermant les yeux, t'imagines pas la discussion, c'est juste un bruit de fond, mais t'imagines comment est la personne, comment est l'interlocuteur, ses yeux, sa taille, tout ça. Les oiseaux, t'entends l'oiseau, comment il est.
Trop intéressant.
Et il donne plein de méthodes de méditation et c'est hyper intéressant. C'est Breezology de Stig Averal Severinsson, un mec. De toute façon, vous mettez Breezology, vous avez le bouquin sur Google.
Lourd. Bah, de toute façon, on mettra ça dans les liens sous l'épisode comme je fais à chaque fois. Eh ben écoute, merci mon Davy pour ce merveilleux moment, une bien belle conversation cosmique. Merci à toi.
C'était top. Merci beaucoup. C'était vraiment top. Merci.
Oh oui, les movers. Voilà une conclusion. Un épisode assez dense, assez riche, très très marrant. Grâce à Davy Gallon. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, dans la description de ce podcast, vous allez avoir le lien vers une page sur mon site dans laquelle vous allez avoir tous les liens, toutes les ressources, toutes les notes qui sont extraites de ce podcast. Donc vous allez avoir le lien sur les livres, les différentes applications, les différentes notions dont on parle et un résumé rapide. Voilà des liens que Davy mentionne ou voilà sur certains sujets, certains concepts. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et pour celles et ceux qui veulent commencer leur développement, on va dire d'une meilleure routine, vous allez pouvoir aussi avoir dans ce lien un accès vers une petite formation, une mini formation que j'ai appelée la routine matinale parfaite, dans laquelle je vous partage gratuitement une routine matinale de mobilité qui dure une quinzaine de minutes, dans laquelle vous allez pouvoir déverrouiller vos articulations, enlever les raideurs et les douleurs simplement à la maison, dans des petits espaces complètement gratuits. C'est extrêmement simple, extrêmement efficace. 3-4 petits mouvements par articulation pour déverrouiller son corps, comme le disait Davy. Voilà, des petites Jefferson curls, des petites flexions de la colonne, vraiment bouger, shaker un peu le corps. Et avec cette routine-là, vous allez avoir deux autres fichiers audio qui vont être une introduction à la méditation guidée, et une petite introduction à une technique de respiration justement de Wim Hof, cette personne dont Davy nous parle dans le podcast. Donc voilà, c'est moi qui vous les donne, c'est super simple. Voilà, une dizaine, entre 10 et 15 minutes par fichier. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent et qui aimeraient aussi avoir quelque chose de concret et qui aimeraient aussi faire les premiers pas vers le développement d'une plus de conscience corporelle, de plus de bien-être, plus de bien se sentir et pouvoir enlever les raideurs et commencer un peu à se libérer dans son corps et se sentir bien. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la bio. La routine matinale parfaite avec évidemment, comme d'habitude, ma routine de mobilité gratuite accessible. Sur ce, merci encore de votre soutien. Si cet épisode vous a plu et si les autres vous plaisent, n'hésitez pas à me noter. Ça m'aide énormément à partager le podcast et à le faire découvrir à d'autres gens. C'est vraiment le bouche à oreille, hein, ce format. Il n'y a pas vraiment d'autre manière de le partager. Donc, un petit 5 étoiles sur l'Apple Podcast et les autres plateformes, ça m'aiderait beaucoup. En vous remerciant, mes movers, c'est toujours un régal d'avoir vos messages de soutien. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, comme d'habitude, une fois par semaine. Abondance, gratitude et bienveillance. Ciao, ciao !